Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction.
A long time ago, in a galaxy far, far away,
there has been an awakening. Have you felt it?
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational!
Hello, hello, and welcome to
Star Wars On Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
What a strong this one.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by.
We would be honored if you would join us.
May the Force be with us.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition littérature consacrée à l'état du canon Star Wars en comparaison avec l'ancien univers étendu, c'est-à-dire l'univers légende. Alors je suis Henri Levental et aujourd'hui je suis accompagné de Thomas, salut Thomas.
Salut Henri.
Et de Danny, salut Danny.
Bonjour Henri, bon retour derrière le micro.
Derrière le micro et en présentation, ça faisait longtemps donc excusez-moi si je suis un petit peu rouillé. Alors, on va tout de suite passer donc, au petit WhatsApp. Alors, quoi de nouveau de votre côté? On va reprendre avec Danny.
Pas grand-chose. Je suis très occupé au boulot, donc j'ai pas beaucoup de temps consacré à Star Wars. J'ai déballé la vague 12 du jeu X-Wing miniature, donc j'avais déjà fait un petit vidéo pour la vague 13. J'ai déballé la vague 12. J'ai pas eu le temps de lire les cartes encore. J'ai continué le roman Canto Bight. J'essaie de le finir pour essayer d'en parler éventuellement. C'est un petit peu pénible par endroit. Donc, des fois, c'est ça prend plus de temps. J'ai pas écouté les deux épisodes récents de Rebels. Parce qu'au Canada, ils sortent seulement demain. Donc, il y a une semaine de décalage avec les États-Unis. Donc, mais j'ai vu quand même la scène critique, donc je vous dirai rien. Et puis c'est pas mal ça de mon côté. Évidemment, ben tout ce qui est rapport à Star Wars en direct, bien sûr.
Et de ton côté, Thomas?
Alors moi, j'ai absolument pas vu justement les Star Wars Rebels, c'est pour ça que Danny m'a fait un peu peur. Je me doute un petit peu de ce qui peut se passer, mais surtout, la bonne nouvelle, j'ai appris que du coup, durant la première moitié du mois de mars, vont être diffusés les épisodes VF, donc là, je suis ravi. Et les derniers tomberont le 18 mars, donc ça veut dire qu'on aura très peu de décalage avec la VO, donc je pense que je vais me connecter à France 4 pour regarder ces nouveaux épisodes, donc je suis ravi. Et puis sinon, on a enregistré, je m'excuse auprès des éditeurs, on a enregistré une émission littérature juste avant, j'ai essayé de me lancer dans le montage. C'est très très laborieux avec mon PC entrée de gamme qui me fait n'importe quoi et m'en fait baver, et donc du coup là j'ai passé des heures et des heures, mais pour l'instant ce n'est pas très prolifique, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux, puis donc je m'excuse pour le petit retard qu'il y aura, puisque du coup elle a été enregistrée en avance et vous l'aurez certainement après celle-ci. Voilà.
Et pour moi, justement, par rapport aux annonces, aux diverses annonces dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission, j'ai un petit peu accéléré pour compléter mes collections justement de romans en VO, parce qu'on ne sait jamais. Et donc là, j'en suis en train de recevoir au fur et à mesure des États-Unis, désolé Dani. Mais je suis en train de compléter ma collection de grands formats en VO de Star Wars. Il m'en manque plus qu'un.
Oh, et lequel?
Il me manque plus que le Courtship of Princess Leia.
Ah, ok.
Voilà, que j'ai commandé, là, il y a justement en rentrant chez moi, parce que j'ai reçu là, encore quatre...
C'est les hardcovers, c'est ça?
C'est ça, les gros hardcovers, ouais.
Et ceux-là, ils ne sont pas réédités. Quand ils sont réédités en poche.
C'est ça, ouais. Il n'y a pas de réédition des grands formats Star Wars...
Et est-ce que t'as autant de spéculations en VO qu'en VF?
Les vieux, non. Par contre, d'après ce que j'ai pu voir, ceux qui sont du canon, j'ai pu voir déjà des prix qui flambaient pour les premiers, genre Tarkin et tout ça. Ouais. Je crois qu'ils sont déjà épuisés et je crois qu'il y a déjà pas mal de spéculations. Mais comme on le dit, c'est vrai qu'ils sont tellement trouvables en poche que c'est sûr que c'est pas comme en France, évidemment, où tout va flamber parce que ça sera jamais réédité. Mm-hmm. Mais effectivement, comme c'est tellement réédité pour l'instant aux États-Unis, que c'est vrai que l'augmentation des prix des grands formats, ça n'a, à part pour quelques collectionneurs comme moi, on va dire, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'intérêt.
La grosse spéculation, je pense, c'est surtout aux États-Unis, parce que j'ai eu l'expérience, c'est les romans qui sont exclusifs aux conventions. Je me souviens quand j'ai été à Célébration, dernière Célébration, on a fait la file pour avoir le roman de Tron exclusif à la Célébration. Et écoute, il y avait des files interminables à chaque jour juste pour avoir cette copie-là. Et on s'est fait couper juste devant nous la ligne. Donc, écoute, on a abandonné. Puis bon, c'est juste pour une couverture différente. Mais il y en a qui collectionnent toutes les versions. Hein, donc, puis en plus, c'était signé par Timothy Zahn à la suite parce que lui était au bout de la ligne pour signer ton roman en plus, donc...
Ce genre de roman, je crois que ça part pour déjà plusieurs centaines d'euros sur eBay.
C'est ça.
Mais... Déjà la couverture, puis derrière signée par Zahn.
Exactement. Donc, moi, c'est pour ça que depuis l'achat de Disney, ben, je fais seulement écouter des audiobooks. Donc, j'ai plus de version papier... Des romans maintenant. Donc.
En fait, on pourrait dire que finalement, cette spéculation en VO, elle se fait uniquement sur les collectionneurs, donc finalement, mais qu'elle n'empêche pas juste les personnes qui veulent seulement lire, en fait, de pouvoir lire quand même, puisqu'elles ont les audios et les poches sur lesquelles on ne peut pas spéculer puisqu'ils sont réédités. Et quelque part, c'est presque tant mieux pour les collectionneurs, parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt de faire de la collection s'il n'y a pas un peu de rareté sur le produit, donc finalement, ça s'équilibre assez bien, les forces.
Aux États-Unis, Ça, je trouve que c'est effectivement, moi je me suis fait là, ma collection, là, les derniers bouquins. Bon, il y avait un petit. Évidemment, ça montait un peu le prix à cause de l'expédition, mais sinon, j'aurais été directement aux États-Unis, je me faisais des. Quelquefois 5-6 bouquins pour une vingtaine d'euros, quoi. Donc c'est vraiment des. Et quelquefois, j'en ai reçu que j'avais plus l'impression presque. C'est comme si je venais de les acheter sur Amazon, tellement ils étaient en bonne qualité et comme neuf. Donc c'est vrai que pour.
Et je suis pas mal certain aussi qu'il y a des gens qui se débarrassent de leur collection légende aussi, donc ils vendent à bas prix. Donc
on va dire que ça en fait profiter d'autres.
T'achètes plus de VF par contre?
Ah non, du tout. Depuis, j'achetais encore, d'ailleurs il me manque encore quelques mois, parce que vous savez que Pocket a sorti quelques romans encore légende après leur rachat, enfin après qu'ils soient passés au canon. Mais c'est vrai que moi j'ai complètement arrêté d'acheter en VF quand le canon a été annoncé. J'ai fini mes collections légendes de l'époque et puis j'ai arrêté. Parce que c'est vrai que je suis passé à la tout VO et ça me faisait peut-être un double achat peut-être qui commençait à être un petit peu inutile. Donc je suis passé vraiment à la toute VO maintenant. Je garde mes bouquins, je sais qu'il m'en manque encore quelques pockets, donc avec le. Parce qu'aussi je voulais pas avoir le bandeau légende. Donc c'est vrai que c'est un petit peu aussi arrêté ma collection de ce côté-là, et puis bon, d'un côté tant mieux. Donc effectivement je n'ai aucun exemplaire Panini et aucun livre canon chez Pocket. Et j'ai eu la chance de terminer aussi l'achat de mes derniers romans en poche juste avant que le bandeau aussi Legends arrive aux États-Unis. Donc je suis content de moi de côté collection.
Tu pourrais collectionner avec et sans le bandeau aussi.
Ouf. Je suis pas sûr que ma copine qui est assise derrière soit très d'accord.
Demande à Raphaël comment il fait avec les R2-D2, tu verras.
Donc voilà, avant de passer en hyperespace, on vous rappelle nos émissions récentes. Donc il y avait tout d'abord l'émission régulière 145 où Thomas ici présent, Céline, Sylvain, Raphaël et Fay discutent de l'annonce de la fameuse série de films par Benioff et Weiss, qui sont donc les créateurs et scénaristes de la série Game of Thrones sur HBO. Et ainsi que Star Wars Collector 10, où Thomas et Raphaël discutent de l'origine des jouets Star Wars et du documentaire qui a été diffusé sur Netflix, The Toys That Made Us. Alors ensuite, en n'oubliant pas nos fameux partenaires, donc ils sont assez nombreux maintenant, nous avons donc Mint Inbox, Star Wars Holonet, SidClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France, Génération Star Wars et Science Fiction. Sans plus attendre, passons donc en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Alors juste un petit mot avant qu'on commence notre fameux débat. Il est évident que compte tenu des commentaires qu'on peut trouver principalement aux États-Unis, mais c'est vrai que depuis la sortie de Last Jedi, on a pu voir des commentaires un petit peu limite de certains fans. On vous rappelle qu'on essaie de quand même de rester civilisé et que on sait qu'une discussion entre canon et légende risque d'activer un petit peu le sang des gens. Donc, mm-hmm. On va essayer de rester civilisé et de discuter de tout ça calmement. Mm-hmm. Parce qu'on risque d'être passionné, que ce soit nous entre participants ou même nos éditeurs parlent dans le futur. Alors, tout d'abord, on va commencer par parler donc de la principale question, c'est l'arrêt total des publications légendes chez Pocket. Donc, ils ont eu quelques rééditions récemment et tout ça, mais... Donc, ça
va. Dont
Dark Bane, ils ont ressorti la trilogie de Throne, il y a eu... Et je crois récemment, je crois que c'était la trilogie Han Solo d'ailleurs.
Non, plus récemment, c'était l'Académie Jedi qui est sortie en même temps que Darth Bane. Et juste avant, on avait eu la trilogie d'Han Solo avec la main de Throne, tu sais, la duologie en fait, des deux gros pavés. Et encore avant, on avait eu la trilogie du Jedi Fu.
Donc effectivement, donc il y avait encore quelques publications, mais effectivement, donc c'est pour ça, si vous voulez acheter... Donc c'est ce qui veut dire que la spéculation va rapidement augmenter. Donc pour ceux qui n'ont pas encore certains romans légendes qui sont sortis ces dernières années, on vous conseille de... Bah, malheureusement, c'est un peu le souci maintenant, on va en parler encore plus en détail après, mais c'est vrai que ça va causer de nombreuses augmentations de l'occasion, et on vous conseillerait malheureusement de vous dépêcher d'acheter tout ça sous risque de vous retrouver avec des prix faramineux. Donc on en discutera un peu plus tard dans notre débat parce que ça sera un peu le cœur de notre discussion, mais on commence à sentir que Disney a laissé quelques années se dérouler avant de commencer doucement à dire au revoir à l'univers légende. Donc c'est pour ça, toi de ton côté, Thomas, tu veux nous parler justement un petit peu de Delcourt?
Eh bien, en fait, il se passe la même chose sur Delcourt, puisque progressivement, Delcourt, ils sont en train de perdre les droits de leurs éditions légendes. Alors, ils avaient attaqué, en fait, les rééditions de leur série principale, à savoir Clone Wars, Legacy, on avait les KOTOR, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi, les X-Wing aussi, qu'ils avaient commencé de rééditer. Et en fait, on a appris que, du coup, ils allaient arrêter progressivement la réédition de ces univers légendes. Ils rééditaient aussi des tomes qui sont cool, c'est les vieux Marvel en fait, ça où c'est ironique, c'est que c'est Delcourt qui rééditait les Marvel quoi. Alors que maintenant c'est Disney via Marvel qui édite les nouveaux Star Wars. Et donc tout ça va progressivement s'arrêter et on a les séries une série qui était pour moi la meilleure d'ailleurs, Dark Times, où il y avait aussi Chevalier Errant, Pouvoir de la Force et compagnie qui finalement ne vont plus être éditées. Donc est-ce qu'il y a eu, Henri, une annonce officielle d'arrêt définitif, ou est-ce que c'est juste, on arrête d'éditer certaines séries, est-ce qu'ils vont lâcher la bribe petit à petit, je sais pas. J'avais le souvenir que l'année dernière à QC, justement Thierry Mornay était plutôt optimiste et il avait dit que pour lui il savait que leur contrat allait se terminer courant de cette année, plus ou moins dans l'idée, mais qu'il était plutôt optimiste sur le fait qu'ils allaient reconduire le contrat. Donc moi j'ai pas vu d'annonce officielle comme quoi ils avaient perdu les droits, mais ça sent un peu dans ce sens-là quoi. Ou alors est-ce que c'est parce que justement financièrement ils se rendent compte que leur réédition ne banque pas assez? Là j'ai pas la réponse, je vous laisse donner votre avis les gars.
Mm-hmm. Alors d'après ce que j'ai compris, ça serait vraiment une décision de Disney, que ce soit du côté de Pocket ou de Delcourt, hein. Si j'ai bien compris l'histoire sur les forums et tout ça, ça vient vraiment de
Donc
Disney.
Donc c'est contractuel.
Oui, je pense qu'ils ont dû justement, comme tu disais, Thierry Monnet avait l'air d'être optimiste, mais je pense qu'avec le temps, ils ont dû voir que peut-être que le contrat a dû changer légèrement au fur et à mesure, parce que je pense que Disney ont l'air de faire avec Star Wars, ils ont l'air de prendre des décisions un peu au jour le jour. Donc c'est vrai qu'un jour ils peuvent dire quelque chose et le lendemain ils changent totalement. Du côté de Pocket, l'annonce a été faite officiellement. Pour l'instant, Delcourt. Même si ça a été, en fait, ça a été un message envoyé par Thierry Mornay, mais je pense que, ils l'ont peut-être pas annoncé officiellement, mais je pense que ça l'est aussi également parce que ça fait suite, comme je le dis, à l'annonce de Pocket, donc la coïncidence est un peu grosse.
Pocket, donc, c'est à cause des droits ou c'est que c'est une décision de leur part?
L'information d'origine, ce sont une question de droits. Pocket n'a plus l'autorisation d'exploiter les romans avant 2015.
Heureusement qu'ils ont réédité Darkbend, quoi.
Voilà. Donc, en fait, tout ce qui date quasiment, ils ont, je sais plus quand est sorti chez eux, la traduction française de A New Dawn, qui était, genre, le premier roman adulte à sortir dans l'univers canon. Mais je crois qu'il doit dater d'à peu près de cette époque-là, parce que si je me trompe pas, il est sorti fin presque, attendez, je vais vérifier mes notes. A New Dawn était sorti en septembre 2014 aux États-Unis.
Ouais, mais nous justement, c'est décalé parce qu'il est sorti très récemment, A New Dawn, hein. Et,
je pense que ça concerne effectivement tous les romans, je crois qu'ils ont dû commencer, Pocket a dû commencer à publier à partir de 2015 canon, et donc effectivement ça concerne tout l'univers légende.
Ils avaient aussi réédité, tu sais, le roman de Dark Plagueis, donc ça veut dire qu'ils rééditaient pas que des trilogies, mais par contre ça suppose que s'ils ont toujours les droits des romans canon, ils peuvent très bien nous rééditer certains romans canon qui seraient devenus introuvables.
Ah oui, ça c'est pas du tout impossible.
Tout ce qui est canon, il y aura aucun doute qu'ils vont refaire des rééditions. Moi, je compare plus par rapport aux États-Unis, des romans légendes, là, ça fait une éternité qu'il n'y a pas eu de réédition, ils ont complètement arrêté, là. Ils sont encore disponibles en version numérique et puis en audiobook, mais je pense pas qu'ils font des réimpressions maintenant des romans légendes, là.
T'es sûr de ça, Danny? Parce que moi,
j'ai regardé, c'est...
Parce qu'aux dernières nouvelles, il n'y a jamais eu d'arrêt de réimpression des romans légendes.
Parce que quand je vais dans les librairies des romans légendes, par exemple, c'est inexistant, là. Donc...
Parce que là, j'en teste juste rapidement quelques-uns sur... En prenant vraiment au hasard sur Amazon américain, et pour l'instant, ils disent à chaque fois d'autres exemplaires en cours d'acheminement.
Je suis surpris parce que ça fait... je vais régulièrement à la librairie, puis j'ai pas vu de romans canon depuis au moins 2-3 ans. Des romans légendes dans les librairies. Fait que peut-être qu'en ligne, il y en a encore. Il en réimprime pour la en ligne, mais...
Les librairies chez vous, Danny, ils proposent quoi, du coup? T'es à Montréal, toi?
Non, je suis à Ottawa.
À Ottawa, ouais. Oui. Ils proposent quoi, eux?
Ah,
c'est de la VF, de la VO?
Ah, seulement, à Ottawa, je suis en Ontario, donc c'est uniquement de la VO. Il n'y a pas de en français. C'est uniquement des romans canons.
Et Montréal, ils proposent quoi, là? Ils les ont, les pockets, ou pas?
Je pense qu'il y en a très peu. Il faut que t'aies une boutique spécialisée qui va les commander, parce qu'ils ne distribuent plus au Québec, je crois. Il faut vraiment que t'aies des places qui font des commandes. Je pense que les BD, c'est moins pire, si je me trompe pas, parce que je ne surveille pas beaucoup le côté français. Du côté romans et BD, mais si je me trompe pas, il y a beaucoup de gens qui se demandent où sont les romans en français, mais il faut que tu ailles à des endroits qui vont en commander pour toi. Donc.
Oui, d'après le peu que je sais du marché, je crois effectivement que Delcourt importe pas mal, parce que je me demande s'ils sont pas diffusés par Hachette, Delcourt. Et je suis presque persuadé que côté effectivement Delcourt est plus facile à portable, mais je sais que les quasiment, que ce soit à Pocket ou même d'autres éditeurs, comme même Bragelonne, parce que je les suis depuis pas mal d'années, et je sais que pour le Québec, c'est pas mal difficile, et ça concerne pas que Pocket et Star Wars.
Non, c'est ça, c'est de façon générale, là.
Voilà. Et donc, avant qu'on parte trop loin dans les débats, justement, dans lequel on va revenir un peu plus tard, on va tout de suite passer aussi à la grosse, comme on reste dans le thème de la littérature. On va rester sur ce thème avec toi, Danny, où tu vas nous parler un petit peu justement de la grosse annonce de tous les romans qui vont sortir autour du film Solo, A Star Wars Story, qui sortira en mai prochain.
Oui, un peu de bonnes nouvelles, parce que c'est relativement négatif de quoi qu'on parle présentement. Donc, c'est le 16 février dernier que Entertainment Weekly, suivi du site officiel, nous ont déchargé complètement le lot des livres, des publications qu'il va y avoir autour du film, Solo A Star Wars Story. Il y a énormément de livres pour enfants. J'en parlerai pas vraiment, les livres pour enfants, parce que bon, t'as des livres avec des autocollants, des livres avec des effets spéciaux, des livres un peu plus, un peu comme Trouver Charlie, des trucs comme ça.
Oui, ça. Ça, c'est... Moi, j'en ai plein, moi, à la maison.
J'imagine, mais je parlerai pas de ceux-là parce qu'il y en a énormément. Je vais surtout concentrer sur ce qui, et pour les adultes et jeunes adultes, puis qu'est-ce qui risque d'être traduit en français aussi, éventuellement. Oui.
Est-ce que vous avez vu, je te recoupe pour insérer ça là-dedans parce qu'après ce sera trop tard. À Carrefour l'autre jour j'y étais, j'ai regardé dans les rayons librairie, j'ai vu pour les enfants, il y a Chewbacca et les Porks.
Oui.
Et c'est pas un endroit où tu, c'est pas un genre où est Charlie, c'est vraiment une histoire qui se passe sur Actu où Chewbacca rencontre les Porks. Bon, ils vont 11 euros quand même, donc ça fait une fois et demi le prix d'un roman, mais ou le prix d'un Panini Comics, mais franchement il me fait de l'œil et je me demande si je vais pas leur acheter un de ces quatre. J'ai feuilleté vite fait. Ça a l'air super rigolo, mais complètement inutile, quoi, par le compte.
On va peut-être voir pourquoi que Chewbacca a décidé de manger les porgs après. Donc, je vais commencer avec les livres de référence que vous appelez en France les beaux livres.
C'est ça.
Un de mes préférés, comme toujours, The Art of Solo, A Star Wars Story, donc, qui va paraître en même temps que le film le 25 mai par Phil Stostak. Donc, c'est le livre où est-ce que vous pouvez voir tous les concept art. On voit l'évolution un peu du film par les concept art. Donc, c'est quand même intéressant de voir aussi le développement du film avec ce genre de beau livre-là. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a eu des problèmes avec les deux réalisateurs qui se sont fait mettre à la porte. Donc, on va peut-être voir des concepts qui auraient pu être dans le film. Donc, c'est de ce côté-là, ça peut être intéressant. Mais c'est toujours un des livres que je m'achète papier. Ça, les beaux livres, ça, je me les achète papier parce qu'ils sont pas tout simplement pas en audiobook de toute façon. Ensuite...
Je te coupe juste une seconde, juste pour dire que l'édition française paraîtra chez Huguin et Munin, comme les précédents, le 25 mai.
Ah, en même temps.
Cool.
Non, intéressant. Aussi le 25 mai, donc la plupart des livres que je vais vous parler, c'est la plupart sortent en même temps que le film, aux États-Unis, du moins la date des films aux États-Unis. Solo, A Star Wars Story, The Official Guide, donc le guide officiel de Star Wars Story qui est écrit par Pablo Hidalgo. Donc, c'est en fait...
Est-ce qu'il sera monté comme le Rogue One, où tu mélanges le visuel, les véhicules? Ah, c'est cool ça.
Oui, il y a en fait, même s'il s'appelle The Official Guide et non le dictionnaire visuel... c'est le même concept. Je sais pas s'il va y avoir autant que Rogue One, mais ils disent qu'il va y avoir des cross-sections à l'intérieur. Donc, c'était vraiment un guide officiel qui va avoir un peu la combinaison des deux. Je préfère grandement ce format que acheter deux livres séparés.
Tu vois, par contre, c'est con parce que pour Rogue One, t'avais d'ailleurs fait un Star Wars Direct Express, c'était génial. Mais pour Star Wars 8, je pensais qu'on allait avoir la même édition et ils sont revenus en arrière et du coup, je me suis pris que le visual guide. Mm-hmm. Tu vois,
mais qu'est-ce que tu veux? On est des vaches à lait, hein? Donc,
pourquoi ils reconduisent l'expérience à certains moments et pas à d'autres, tu vois?
Je pense que c'est par rapport au spin-off, au Star Wars Story, peut-être qu'ils veulent préférer peut-être se démarquer un petit peu en mettant, en réduisant le nombre d'albums et se faire peut-être plus d'argent, comme les gens ils savent qu'il y aura plus de
spectateurs. T'es moins vachalé sur un spin-off, c'est ça
voilà.
que je veux dire.
Ouais. C'est ça. Mais,
en tout cas, c'est une excellente nouvelle, Danny, je le prends celui-là.
Oui, exactement. D'ailleurs, le nom, ils ont changé le nom pour guide officiel, quoi, mais bon, si on se fie à celui de Rogue One qui s'appelait le Ultimate Visual Guide, là, c'est le guide officiel, The Official Guide. Il n'y a pas de dictionnaire visuel dans le mot du tout, donc j'ai hâte de voir en effet celui-là.
Là aussi, de ce côté-là, on n'a pas encore de date pour l'édition française, mais il y a de fortes chances que ça paraisse comme les précédents, à peu près à la même époque chez Hachette.
Je vais terminer les livres de référence avec un qui est plus fait pour les jeunes adultes, qui est The Movie Making Magic of Star Wars, Creature and Aliens, donc la magie de la production de films Star Wars, Créatures et Aliens, aussi le 25 mai, qui est par Mark Salisbury. Donc, c'est un livre qui était supposé sortir en même temps que Last Jedi, mais il a été repoussé. Il est supposé avoir 144 pages avec des éléments interactifs, des pages qui se déplient, etc. En fait, c'est plus un livre qui montre un peu comment ils sont partis du concept jusqu'à la création final qu'on voit dans les films des masques et des animatroniques. C'est plus une espèce de livre making of. Les 10 films, donc incluant Solo.
Ah,
oui. Donc les 8 films Star Wars plus les deux Star Wars Story. Donc oui, on est rendu à 10 films. C'est quand même spécial. Ensuite, on va aller dans les BD. Donc dans les bandes dessinées, les comics, il y a Star Wars Lando, Double or Nothing, qui va paraître le 29 mai. En français, on pourrait traduire par Lando qui tout double, en fait. C'est une mini-série de 5 numéros qui est écrite par Rodney Barnes et dessinée par Paolo Villanelli. Donc, si on regarde la couverture, ça, ils ont gardé un peu le même visuel, un visuel similaire, je dirais, à la série Lando de Marvel. Donc, avec ils ont remplacé, bien sûr, le visage de Lando avec Donald Glover. Mais le style de look et la colorisation de la couverture est relativement similaire, je dirais. On a un petit synopsis que je vais vous lire. Donc, lorsqu'une jolie seigneur du crime engage le vaurien le plus talentueux de la galaxie pour aider à libérer son peuple asservi par l'Empire, Lando doit tout miser sur une mission impossible pleine de dangers. Juste avant les événements de Solo A Star Wars Story, notre charmant contrebandier doit faire face aux forces impériales avec l'aide de son vaisseau, le Faucon Millennium, dans une course mortelle contre le temps. Mais même avec les mauvaises cartes en main, Lando ne peut s'empêcher de jouer. Donc, c'est le synopsis, j'ai aucune idée quoi d'autre ça va parler. Je sais que Tom, tu vas sûrement te procurer cette BD-là, étant donné que...
De toute façon, pour l'instant, sur le canon, moi, je suis totalement complétiste. Mm-hmm. Mais par contre, je reconnais quand même que pour l'instant, les mini-séries sont pas folichonnes.
D'accord, ouais.
Pas terrible. Enfin, je sais pas, Henri, toi qui les lis aussi, ce que t'en penses, mais...
Bah, on en parlera là aussi.
Ouais, on va en parler tout à l'heure.
On fera un topo après, ouais. Mais c'est vrai que je suis à peu près de ton même avis. J'en parlerai mm-hmm. un peu plus mm-hmm. en détail tout à l'heure.
Et on va terminer avec deux romans. Donc, le roman principal qui est annoncé le 17 avril, donc c'est relativement dans peu de temps, 17 avril en Amérique, bien sûr, en anglais, il s'appelle Star Wars Last Shot par Daniel Jose Holder. Donc, Star Wars Dernier Tir, peut-être Dernier Tir en français, je sais pas. Donc, ça va être un roman qui est intéressant parce qu'il va se dérouler sur trois époques, dans trois parties. Donc, la première partie se déroule avant les événements du film Solo, il va être concentré sur Lando et son droïde L337. La deuxième partie se déroule entre le film Solo et l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, et va être centré sur Anne et Chewbacca. Et puis, on va d'ailleurs voir Senna Staros, la fausse femme de Han Solo, pour la première fois en dehors de la série de comics.
Ah, cool.
Donc, quand même intéressant. On va peut-être voir une autre facette de cette femme-là. Et puis, la dernière partie va se dérouler après le retour du Jedi. Et on va voir Anne, Léa, Lando et même un jeune Ben Solo avant qu'il devienne Kylo Ren, bien sûr. Donc, c'est trois époques très, très distinctes qui peuvent être intéressantes regroupées en un seul roman. On a un bon synopsis, mais avant, je vais vous décrire un peu les jaquettes parce qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a deux jaquettes différentes. Donc, la première, qui est la jaquette officielle du roman, qui est réversible sur la couverture principale. On a un fond rouge où est-ce qu'on voit la silhouette d'Han Solo qui pointe son blaster vers le ciel avec le faucon version A New Hope. Donc, on voit les mandibules, les espèces de deux branches en avant, en superposition sur le corps de la silhouette. Et le verso de la jaquette, donc vous pouvez la changer de côté, montre la silhouette de Lando sur un fond jaune avec une superposition du faucon. Cette fois-ci, le faucon version Solo, donc avec la pointe un peu plus triangulaire. Puis, il va aussi avoir une troisième version de la jaquette qui va être exclusive à une convention, laquelle on ne sait pas encore, probablement San Diego Comic-Con ou la D23. Sur cette jaquette, troisième jaquette-là, on voit L337 d'un côté et Chewbacca de l'autre, donc aussi avec le faucon en superposition, un peu le même principe que l'autre couverture. Donc, c'est peut-être le roman qui va avoir de la spéculation pour la jaquette, comme on parlait un peu au début, ça reste à voir. Synopsis, donc il est assez long le synopsis, on a une description des époques un peu. Donc ça commence avec même le vaisseau le plus rapide de la galaxie ne peut échapper au passé. Donc avant, c'est l'un des secrets les plus dangereux de la galaxie, un mystérieux émetteur à la puissance inconnue et une récompense pour sa découverte. Mais ceux qui ont volé à bord du Faucon Millennium durant sa célèbre histoire ne sont pas des contrebandiers moyens. Non pas une, mais par deux fois, l'équipage du Faucon a tenté d'obtenir cette récompense. Tout d'abord, Lando Calrissian et le droïde L337 à l'aube d'une carrière ambitieuse. Et plus tard, un jeune et affamé Han Solo en compagnie de son copilote Chewbacca. Mais le créateur de l'appareil, le criminel instable Fizen Gore, ne souhaite pas partager. Et Gore sait comment se venger. Donc, aujourd'hui, 10 ans se sont écoulés depuis la dernière fois que le héros rebelle Han Solo a rencontré Fizen Gore. Avec sa participation victorieuse à une rébellion contre l'Empire et la fondation d'une famille avec une princesse alderanienne, Han n'a pas eu beaucoup de temps pour penser à l'inventeur fou. mais lorsque Lando se montre à la porte de Han au milieu de la nuit, il est en train de fuir les assassins envoyés par Fizen. Et sans l'aide de Han, Lando et toute sa vie sur la Cité des Nuages seront détruits. Assisté d'un pilote tête brûlée, d'un prodigieux craqueur Ewok, d'une femme qui pourrait être l'amour de la vie de Lando et du meilleur ami à fourrure de Han, les deux vauriens les plus célèbres de la Nouvelle République vont travailler ensemble une fois de plus. Ils devront voyager parmi les étoiles et dans le passé avant que Gorn utilise la puissance de l'appareil pour remodeler la galaxie. Et c'est voilà comment se termine. Donc, on dirait un petit peu qu'il y a un Super Weapon of the Month encore là-dedans, qui était classique dans Légende. J'ai hâte de voir. Personnellement, ça me fait penser un peu justement aux aventures de Han Solo et de Lando dans les premiers livres des années 80, là, des Han Solo Adventure et Lando Adventure. Ça semble un petit peu ce type-là, mais avec une connotation un peu plus moderne, parce qu'on se déplace dans les époques. Donc ça peut être intéressant. J'ai hâte de vraiment me procurer celui-là. Je sais pas si vous avez des impressions ou ça va nous donner du contenu supplémentaire sur les personnages qu'on aime, donc c'est quand même intéressant. Des personnages très connus, même pas seulement des personnages secondaires, donc ça c'est intéressant.
Alors moi un truc qui me fait pas vraiment peur, mais c'est vrai que cette histoire de couverture réversible, pour ceux qui voudront changer, je me dis que ça va sûrement vite abîmer le papier. Ouais. Ça va vraiment le tordre ou le. Personnellement, je laisserai tel que je le recevrai la première fois, je laisserai dans cet état-là. Mm-hmm. Après ça, si juste par rapport au synopsis, cette histoire de la femme éventuelle de Lando, enfin l'amour de la vie de Lando, est-ce qu'on verrait enfin, comme on sait que je crois que c'est Pablo Hidalgo qui avait annoncé via Twitter que certains personnages de Légende allaient
reviendraient, ouais.
Effectivement, est-ce que la fameuse femme, ce serait peut-être sa femme de Légende, Tendra Risant? Mm-hmm. Honnêtement, j'aimerais beaucoup, en espérant que ce soit ça.
Mm-hmm. En effet.
Et surtout, effet. On va peut-être savoir pourquoi Lando n'est pas dans les épisodes qui vont suivre, quoi. Enfin, je veux dire, peut-être qu'on aura des pistes là-dessus, mais alors après, on sait pas jusqu'où ça se place dans le Retour du Jedi. Est-ce qu'on va peut-être voir, sans forcément le voir mourir, mais peut-être le voir prendre un chemin différent, une fois que la bataille rébellion est terminée, on mm-hmm. va dire. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant. Et par contre, c'est vrai que Dany, là, ce que tu disais, ça m'a vachement fait penser au roman que t'évoquais. Alors moi, les Lando, je les ai jamais vu parce qu'ils sont restés que pour les VO, mais à l'époque j'avais trouvé les romans sur Han Solo vraiment très très génial, ouais, de retrouver un peu de tout cet esprit là ce serait sympatoche. Et le fait de Sana, j'avais pas noté, mais c'est vraiment bien qu'on nous l'introduise. Alors peut-être que par contre ça sous-entend qu'elle sera pas dans le film, mm-hmm. et pourtant j'aurais trouvé ça cool que un média papier puisse influencer un film, ça serait. Mm-hmm.
On est loin de là encore.
Oui. Non. Encore un autre point de discussion pour tout à l'heure. Mm-hmm,
exactement. Je doute que ce roman-là va avoir un lien avec Solo, par contre, à part Anne et Lando, leur présence. D'après moi, c'est plus le livre que je vais vous parler par la suite, qui est pour jeunes adultes, Star Wars Most Wanted, aussi, qui va paraître aussi le 25 mai, qui est écrit par Rick Carson, qui est un livre pour jeunes adultes. Donc, le synopsis va comme suit. Donc, avant les événements de Solo, A Star Wars Story, Han et Kira n'ont pas beaucoup en commun, hormis d'être des enfants de la rue sur la planète industrielle Corellia, faisant ce qu'il faut pour survivre et ayant de grands rêves. Ils sautent tous les deux sur l'occasion de se montrer aux yeux du milieu criminalisé de ce monde dangereux pour découvrir qu'ils ont accepté la même mission pour le même employeur sans scrupules. Lorsque la mission tourne extrêmement mal, ils se retrouvent à fuir des pirates, un droïde d'un syndicat criminel, l'Empire et leur employeur. Ils devront apprendre à se faire confiance s'ils veulent survivre. Alors voilà. Donc, d'après moi, il y a plus de chances d'avoir un lien avec le film, avec ce roman-là. C'est un livre pour jeunes adultes, donc selon moi, ça va être un peu le même type que Rebel Rising. Je sais même pas s'il est paru en français encore, le livre sur Jyn Erso.
Non, il devait, puis c'est toujours pas fait. Tout comme Ahsoka d'ailleurs.
Okay. Ahsoka a été repoussé indéfiniment d'ailleurs en France.
Okay. Donc justement, Rebel Rising, ça raconte vraiment la jeunesse de Jyn Erso, du moment que Saw Gerrera la sauve au début de Rogue One, comme on le voit, jusqu'au début du film Rogue One, où est-ce qu'elle se fait sauver sur la planète Wobani. Donc, j'imagine que ça va être un peu ce type d'histoire-là avec Anne et Kira. On va en savoir plus. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que sur la couverture du livre, c'est inscrit « Read this book, then see Solo ». Donc, en français, lisez ce livre, puis allez voir le film Solo, maintenant en salle. Donc, c'est comme s'il nous suggérait de le lire avant. Comme s'il allait avoir...
Sauf qu'en VF, c'est cuit, quoi.
Oh, non, ouais, ouais, c'est sûr.
Ben... Ou alors, faut attendre la sortie DVD.
Non, mais... Et encore. Même en Amérique, il sort la journée du film. Donc, j'attendrai pas de voir le film avant de lire ça, là.
De toute façon, je pense qu'on pourra très bien voir le film sans avoir lu le bouquin,
oui,
comme d'habitude.
Non, ça va être un petit lien, selon moi. Voilà. Il va peut-être avoir un groupe criminalisé qui va revenir dans le film, qui vont avoir déjà fait affaire avec dans le roman, puis ça va s'arrêter là.
C'est un aussi peu comme Catalyst, quoi, en gros. Comme vous l'aviez lu avant, Catalyst, avant de voir Rogue One.
Oui, ouais, mais sauf qu'il était paru quelques mois d'avance aussi.
Ouais, mais ça vous avait aidé, du coup?
Ah oui, énormément, mais c'est un livre pour jeunes adultes, donc... par exemple, si Rebel Rising aurait sorti en même temps que Catalyst, ça aurait été un ajout autant que Catalyst avant de voir Rogue One. C'est un autre item de débat qu'on va devoir parler, je vais juste vous le mentionner, c'est qu'il devrait faire paraître les origin stories avant que les films paraissent. Rappelez-vous de ça parce que je vais l'oublier, je le sais que je vais l'oublier quand on va paraître.
Sauf que du coup, ils peuvent pas parce que tu vois bien que du coup, dans le film, en fait, par exemple sur Han Solo, ça a tout changé en 3-4 mois. Donc imaginons que le le bouquin, il a dû tout changer quoi.
Ouais.
Donc, ils peuvent pas être autant en avance quoi. Film soit produit.
Mais dans le cas de Rogue One, au moins, il n'y a pas eu de problème majeur au tournage. Donc ils ont pu se permettre de faire ça probablement. Enfin, et je vais terminer avec toujours pas d'annonce de novélisation pour Solo. Donc, on attend toujours l'annonce pour qui écrit la novélisation. Ils n'ont pas rien sorti par rapport à ça encore.
C'est vrai que pour l'année, on en reviendra encore une fois tout à l'heure. Pour l'instant, les annonces littérateurs sont très, très pauvres.
Mm-hmm. Exactement. Et donc, voilà, ça conclut ma portion de bonnes nouvelles.
Donc, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Donc, notre fameux débat autour entre canon et légende, qui va sûrement attirer beaucoup de foudre un peu partout. Donc juste pour un tout petit topo rapide par rapport justement à l'univers légende, donc on peut signaler que c'est d'abord Del Rey qui a commencé la publication fin 76 jusqu'en 1983, les romans donc en commençant tout d'abord par la novélisation de l'épisode 4. Ensuite, ils ont passé le flambeau à Bantam, entre 91 avec l'héritier de l'Empire et 99, avant que Del Rey reprenne à nouveau le flambeau début 99. Donc ça, on peut parler un petit peu de CD. Il y a eu trois fameuses époques avant l'arrêt de légende l'arrêt de l'univers étendu tel qu'on le connaissait. L'annonce qui a été faite fin avril 2014, où ça aussi, ça a pas mal chamboulé. L'univers littérature, donc je sais pas.
Ta question, Henri, c'est Bantam versus Del Rey, c'est ça?
Non, du tout, c'était juste. Non, notre débat, c'est légende versus canon, donc légende.
Ah, j'ai cru que c'était un pré-débat.
Non, c'était. Je faisais en fait un petit résumé des époques littéraires parmi les éditeurs. Donc il y a eu trois époques, parce qu'on parle souvent de l'époque Bantam, parce que ça a vu naître des séries comme évidemment la célèbre série X-Wing, mais aussi des romans qui ont été moins appréciés, tels que L'Étoile de Cristal, Les Enfants du Jedi. Voilà, c'est ça.
Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de merde que dans l'époque Del Rey. Même s'il y a eu quelques petites pépites, franchement, j'ai trouvé que l'époque Del Rey était bien mieux. Quoi. Mm-hmm.
Mais même si ces romans étaient minables, il faisait avancer l'histoire de Star Wars. Quelque chose qu'on va parler
Oui et non, parce que, par exemple, la trilogie là, avec les enfants du Jedi, où Luke rencontre Callisto et compagnie, ça faisait avancer rien du tout. Quoi.
Non, mais je veux dire, c'est dans le sens que...
Tu te faisais chier et ça avançait pas.
Non, mais c'est dans le sens que l'arc principal de Star Wars avançait, même si c'était inutile.
Oui, l'arrivée des enfants, tout ça, Mara Jade et compagnie, mm-hmm. Ouais, ça là-dessus, on est d'accord. Mm-hmm.
Ah bah c'est sûr que le premier roman justement qu'ils ont sorti Bantam, ça a quand même été l'héritier de l'Empire, et pour une grande majorité de personnes, ça a été pour 80, on va dire 95% des gens de qui lisent la littérature Star Wars, ça a été le livre d'entrée. Mm-hmm. Non, pour ces gens-là,
parti comme ça, on est bien d'accord que les X-Wing, en amenant certains personnages, ils ont été assez top aussi. L'Académie de Jedi, elle a amené énormément. Donc, il y a quelques bons titres ou bonnes sagas qui vraiment nourrissent le tout. Mm-hmm. Mais il y en a aussi qui sont complètement dispensables et où franchement, je regrette d'avoir perdu du temps de ma vie là-dessus, quoi, des fois.
Mm-hmm. Ah, c'est sûr que l'époque Bantam a connu ces romans un petit peu indépendants. Donc ensuite, quand justement le point important, quand Del Rey a donc repris le flambeau en 99, c'est qu'on peut noter que même pas 6 mois plus tard, ils ont commencé la plus grande saga qu'ils ont jamais créée pour Star Wars, qui était quand même le Nouvel Ordre Jedi. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose que ce qu'on a justement pour rentrer dans le vif du sujet, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans l'univers canon. Mm-hmm. Je veux dire que le plus gros, effectivement, il y a des romans sympas. Throne, c'est sympa. Le Battlefront 2, Twilight Company, c'est sympa, mais si on prend toutes les histoires séparément, elles sont toutes dispensables. Mm-hmm. On peut supprimer n'importe quel roman, n'importe quelle histoire. Ouais. On reste dans le vif du sujet, on comprend toute l'histoire. Mm-hmm. Alors que si on supprime par exemple une série comme les X-Wing, on supprime comme une série comme la trilogie de Han Solo, la trilogie corellienne, l'Académie de Jedi, et on perd tout un pan important de toute l'histoire qui va suivre. Mm-hmm. Donc c'est vrai que souvent, chaque fois qu'on nous disait « Ah, j'ai envie de lire cette série », oui, mais il faudrait plutôt lire un petit peu ce qui se passait avant pour comprendre l'histoire. De nos jours, il n'y a plus ça. Et même si on regarde je pense que Del Rey devait savoir un petit peu ce qui allait se passer, parce que même si on regarde les dernières publications qu'ils ont sorties avant l'annonce du passage au canon, c'est que leur dernier roman était déjà ce qu'on appelle, le terme que j'ai un peu retrouvé un petit peu aux États-Unis, c'est le terme anecdotique. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on a eu les deux premiers qui étaient censés faire une trilogie avec justement Heir of the Jedi, qui a été Heir to the Jedi, qui était.
On parle pas.
Oui, ben justement.
Pas pu le finir. Pourtant, je m'étais fait la promesse que tous les canons, je les lirais. C'est là où j'ai flanché.
Bah, il y a quand même de bons moments dans ce roman-là, surtout avec la, je sais plus comment elle s'appelle.
Ouais, la femme qui rencontre, le love interest un peu de Luke dans ce.
Voilà, c'est un peu dommage. Je trouvais que c'était un peu la partie intéressante du roman. Mais donc, ça a été un petit peu c'était en fait à l'origine une trilogie. Avec les deux romans précédents avec les personnages, donc il y avait Honor Among Thieves avec Han Solo, et l'autre c'était
Razor's Edge
Voilà, Razor's Edge avec Leia, et ce troisième bouquin devait être la troisième trilogie sur donc les trois personnages, notre fameux trio, et c'est un peu la trilogie qui a été coupée en deux, et c'est vrai que déjà, donc comme je disais, c'était déjà à la fin du contrat légende, c'était déjà des romans très anecdotiques. Donc je pense
une première petite métaphore, Henri, du coup pour alimenter le débat, parce que là on est dans le descriptif. Donc ce roman-là, il m'a fait penser à un truc qu'on a vu dans la série télé, tu sais, The Toys That Made Us, où les mecs expliquaient qu'à une époque, pour faire du pognon, ils récupéraient des anciens jouets, des moules d'anciens jouets, et qui collaient l'autocollant Star Wars. Ou même, des fois, ils refaisaient de l'étiquetage, en fait, ils changeaient juste la boîte, ils tunaient un petit peu, ils collaient des autocollants sur un ancien jeu, et juste ils collaient Star Wars, et ils disaient, vas-y, achète, c'est Star Wars. Et ben là, c'est un peu la même chose. Ils récupèrent des espèces de bouts de trucs qui ont commencé d'être montés à droite à gauche sous l'ancien canon, enfin sous le légende en fait, et puis il te colle l'étiquette canon et dit vas-y achète ces canons. Et ben là c'est clairement ça qui se passe. Et sur Tarkin, même s'il était de meilleure qualité, c'était aussi un peu ça. C'est-à-dire on récupère des trucs qui traînent à droite à gauche et on colle canon dessus et achète. Ou des fois on dit allez raconte une histoire, peu importe quelle qu'elle soit, et on colle canon et du coup on achète. Mais je suis le premier à acheter d'ailleurs.
Ouais, mais le cœur de la discussion, c'est, puis je le dis toujours depuis qu'on a commencé Star Wars en direct littérature, c'est que tout est l'arc narratif principal de Star Wars a été retiré de tout ce qui est littérature. C'est clairement ciblé aux médias visuels, donc film, TV, animation. On n'aura plus jamais d'histoire autre que des histoires d'origine ou des histoires de personnages dans la littérature, parce que
oui.
C'est clairement le média visuel qui va prendre toute l'attention, puis c'est correct, parce que bon, c'est normal. c'est ça qui attire le plus de gens.
C'est sûr, de nos jours, comment veux-tu qu'ils annoncent une série comme Le Meilleur Jedi? Ils se diraient, c'est un truc dont on a déjà parlé. Une telle histoire, ils vont se dire, ah, ça sera évidemment plus intéressant de faire ça visuellement.
Mm-hmm. Exactement. Mais tu sais, Star Wars a quand même un contexte spécial parce que de nos jours, les films sont tous basés sur des romans, ou du moins la plupart. Et non l'inverse. Star Wars a toujours été l'inverse. C'est un film suivi d'un roman ou d'une novelisation ou d'une série de romans qui suit le film. Donc, il y a le contexte différent. C'est pour ça qu'on peut jamais avoir autant de détails dans un film qu'on va avoir dans un livre ou une série de livres. C'est dommage. C'est ça qui était le fun de légende. Et, quoi, on avait juste quelques films. On avait 6 films de Star Wars puis 2 films de Ewok dans le temps, dans la période légende. Là. Et puis, la série animée Clone Wars puis Tartakovsky. Plus les séries animées Droid puis Ewok, j'oublie ça. Là. Mais, mais je veux dire, l'arc principal qui faisait avancer l'histoire, c'était la littérature, parce que les films étaient tellement espacés, il y avait de l'espace entre qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là. Ben, l'histoire se continuait, on allait dans une autre direction, puis on va continuer l'histoire de nos personnages, puis c'est ça qui était l'arc narratif principal de Star Wars. Maintenant que les gens ont mis de côté, ben, on recrée un nouvel arc narratif encore basé sur les films. On a 8 films, on a 9 films, puis on a un 10e qui s'en vient avec Solo. Maintenant, ça reste basé autour de ça, Clone Wars et la série Rebels. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec la littérature? Ben, on va rajouter du petit détail. Il n'y a rien d'important qui va se passer là-dedans, c'est impossible. Donc, ça fait des histoires d'origine. Qu'est-ce qu'il faisait ce personnage-là avant? Bon, on va faire un livre au complet là-dessus. C'est vraiment... C'est à la limite inintéressant. Tu disais que c'était dispensable, ben la plupart...
Anecdotique.
Anecdotique. C'est ce qui comprend la littérature Star Wars présentement. Je lis pas les BD, mais d'après ce que j'entends sur Internet, puis même Loïc...
C'est pareil, hein? C'est
même
pareil.
Loïc et Thomas, c'est pareil. C'est absolument...
C'est Peter Mouillet.
Pas inintéressant. C'est pas inintéressant. C'est intéressant de voir d'où viennent les personnages puis qu'est-ce qu'ils ont fait avant, etc. Mais c'est tellement limite en frais d'intérêt par rapport à l'arc narratif principal. Pour moi, depuis le nouveau canon, je vais seulement parler de côté roman. J'ai seulement 6 romans que j'ai vraiment appréciés dans tous ceux qui sont sortis depuis la chute Disney. Donc j'ai Catalyst, un Rogue One novel de James Luceno, j'ai Dark Disciple de Christy Golden qui est un peu triché parce que c'est des scripts de Rebels qui ont été
écrits. Là, tu vois, ils t'ont remis un autocollant canon là-dessus.
Ouais, exactement. J'ai Tron de Timothy Zahn parce que ça ajoute au personnage de Tron qu'on voit dans Rebels, quand même intéressant, même si la trilogie d'origine, Legend, a été mise de côté. Lost Star, qui est juste des histoires connues d'un point de vue différent, donc c'est relativement intéressant du sens que c'est la trilogie originale plus la bataille de Jakku, donc ça ajoute un petit peu. J'ai adoré Leia Princess of Alderaan et Bloodline de Claudia Gray, donc il y a 3 romans de Claudia Gray là-dedans, donc c'est les 6 que j'ai vraiment aimé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils amènent quelque chose à l'arc narratif principal de Star Wars, minime, mais il ajoute quelque chose à la trame qu'on appelle les films, le média visuel. Toutes les autres romans, c'est pour moi, c'est
ok. Oui, mais même
pourtant,
cela,
ça gravite autour du principal, quoi. Ça gravite toujours. Oui. Tout à l'heure, tu disais oui, mais c'est toujours un avant, un après, etc. Ben, c'est à nouveau ça. C'est toujours des histoires qui gravitent autour des films et il n'y a pas d'histoire originale. Et dans les comics, c'est exactement la même chose. Moi, je suis à peu près d'accord avec les romans que tu as cités, mais je rajouterais dans les comics, les comics canon sont géniaux. Vraiment très cool. Il y a quelques autres comics qui sont sympas. Au début, la série Dark Vador était cool. Et là, visiblement, la nouvelle série Dark Vador qui sort est vraiment très cool. Mais à chaque fois, c'est des séries qui gravitent autour de films, mais sans s'en affranchir complètement. Et on peut pas dire qu'Afra, alors je vais peut-être me faire des ennemis parce que certains adorent, Afra, on peut pas dire que ce soit vraiment affranchi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un espèce de côté de pellicule du film en plus noir, quoi. Enfin, mm-hmm.
On peut comprendre que... le story group a peut-être pas autant de temps à consacrer à cause qu'il s'occupe aussi du média visuel, fait qu'il n'y a plus vraiment le temps de s'occuper de tout ce qui est les romans et BD, puis il dit aux auteurs, ben allez-y, puis faites quelque chose qui brassera pas trop l'histoire principale. Donc,
à l'époque de KOTOR, Danny, ils ont dit, bon bah alors ok, là c'est trop fourni, eh ben on part 1000 ans, 3000 ans en arrière, mm-hmm. Et puis on raconte une histoire d'avant, et puis on s'affranchit un peu de la trame principale. Or là, ils sont tout focalisés sur cette trame là, et puis du coup, comme il y a les séries télé qui arrivent et compagnie et les films, bah hop, on est un peu coincé. Et puis il y a primauté pour tout ce que tu dis là,
au média visuel, en fait, ouais.
Et donc du coup. Non, chasse gardée les gars, vous avez pas le droit d'y aller. Si on vous laisse les miettes, en fait, les miettes c'est quoi? C'est ce qui gravite autour. Mais par contre, comme tu l'as dit, t'as des gens comme Claudia Gray ou même quelque part Timothy Zahn, c'est pareil, quand il fait Throne, on leur donne des petites miettes, mais les gens sont tellement talentueux que même avec des miettes, ils t'en font un truc sympa. Mm-hmm. Enfin, c'est vraiment comme
ils réussissent à rajouter quelque chose.
Ouais. Mais en étant libre, mm-hmm. imagine s'ils avaient eu quartier libre pour faire ce qu'ils voulaient, ce que ça aurait pu mm-hmm. donner. Mm-hmm.
Ah non, mais je pense aussi que malheureusement, d'après ce que j'ai compris, c'est que le fameux story group, c'est en fait de la poudre aux yeux, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait ils savent même pas eux où se situent exactement les histoires. C'est-à-dire ils savent même pas exactement où va se situer Heir to the Jedi par rapport à la série Star Wars.
En année,
oui, même en mois, alors qu'avant on avait une chronologie très très précise dans ce qui se passait. Là, en fait, ils disent aux auteurs, faites-vous plaisir, racontez votre histoire, et puis on verra bien si ça va correspondre. Et peut-être qu'ils disent, ah maintenant finalement ça vous pouvez pas mettre, mais il y a aucune précision aucune vraie chronologie dans les histoires. Mm-hmm. Même au début des romans en VO, on nous dit où ça se situe. Ouais, il y a juste les films. On sait par rapport au film, on a un tout petit ordre, mais on n'a pas de date, on n'a rien.
Je suis d'accord.
Et de toutes les séries que vous avez nommées, effectivement, il y a la série Kenan, eh bien, mais tu peux la lire, et tu ne la lis pas, ton visionnage de Star Wars Rebels n'est pas gâché. On ne lit pas Leia Princess of Alderaan, le visionnage de New Hope n'est pas gâché. C'est tout comme ça. Alors mm-hmm. que dans l'univers légende, il y avait ça, évidemment, c'était effectivement principalement littérature. Mais comment apprécier le Nouvel Ordre Jedi si tu n'avais pas lu l'Académie Jedi, si tu n'avais pas lu la série X-Wing, mm-hmm. si tu n'avais pas lu quasiment même la trilogie corellienne, tout ce qui venait avant, là. Mm-hmm. Je parle pas évidemment de la trilogie la trilogie de Thrawn et tout ça. Mm-hmm. C'était tout ça avait une certaine importance pour que tu puisses comprendre ce qui se passait. De nos jours, tu peux te dispenser de n'importe quel bouquin. Mm-hmm. Tu n'es pas perdu.
Bon, mais t'avais quand même 20 ans de littérature là aussi hein, dans légende. C'est certain que il va arriver la même chose avec le canon, il va y avoir tellement de romans, je suis certain qu'il va y avoir des croisements à un certain moment donné. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans là, qu'on a des romans canon?
Ça va faire un peu plus. Mais
il y a
disons
déjà,
que...
déjà des efforts de croisement quand même. Je veux dire,
exactement, mais c'est ça, rajoute 15 autres années de romans. Ils n'auront pas le choix d'avoir des croisements et des trucs que si tu n'as pas lu, tu vas possiblement avoir quelque chose de manqué. Parce qu'ils n'auront pas... on est très tôt encore dans le nouveau canon. Là. C'est ça qui est le truc. Mais tout va tourner autour des films et des séries télé de toute façon. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Puis, je suis d'accord avec toi, Henry. Le story group sont mieux de s'attacher puis de faire une chronologie quelconque parce que du retcon, ils vont être obligés d'en faire dans quelques années déjà. Là. Donc,
qu'il y avait déjà des incohérences quelque part. Pas énorme, mais déjà. Mm-hmm. Alors qu'ils étaient censés, justement, empêcher tout ça. Mm-hmm. Mais je veux dire, là aussi, je voulais dire que même avant que Del Rey reprenne donc, le flambeau en 99, et quand, comme je disais, ils ont quand même lancé New Order Jedi 6 mois plus tard, en fin d'année 99, alors qu'avant, bah, justement, il y avait peut-être eu la première ère Del Rey, il n'y avait pas eu grand-chose qui était sorti. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses sorties pendant Born Time, mais c'était pas non plus ce qu'on avait connu, où on en était... Quand c'est devenu légende en 2014. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'ils ont commencé quand même une sacrée série Sinon, Lord Jedi, ça reste une série, la meilleure série qu'ils ont pu faire. C'est sûr qu'ils ont jamais voulu rééditer l'exploit de faire 19 romans pour des séries, mais c'était quand même un sacré truc, quoi. Ça a duré pendant 5 ans, on a eu ces 19 romans, et c'était comme un vrai feuilleton, quoi. C'était l'équivalent d'un feuilleton en roman.
D'une saga, c'est-à-dire que t'attendais voilà. De mois en mois la suite, comme là, aujourd'hui, finalement, d'année en année, on attend les films.
Ouais. Et les séries télé.
Et les séries télé, bien sûr.
Bah, les
Alors après, les gars, du coup, finalement, j'ai l'impression que dans notre débat, on est en fait totalement d'accord sur chaque point. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un débat? Je sais pas, parce que en fait, ça aurait été bien qu'on trouve quelqu'un d'à peu près pas d'accord avec nous. Par contre, ce qui est quand même cool, et ce que je me dis, du coup, pour essayer de faire de l'opposition, hein, pour qu'on se frite un peu, parce que c'est que finalement, quitte à choisir, je crois quand même que je préfère avoir ce nouveau canon, on va dire, un peu raccommodé. Mais avec une attente lourde et avec des super films et des super séries télé qui restent avant tout audiovisuelles, qui restent la base pour moi de Star Wars, plutôt qu'une littérature de très bonne facture, de très bonne qualité avec des enjeux, mais pas de séries ni de films, parce qu'à l'époque The Clone Wars c'était cool, mais c'est pas au niveau d'une série live ou d'un film quoi.
Bah, je suis pas entièrement d'accord, parce que quelqu'un qui est très littérature comme moi, ma collection principale, comme vous le savez au fil des ans, est portée sur la littérature. Je suis désolé, un roman que tu vas mettre, bon, pour comme toi, Dany, toi, t'es content d'audiobook, donc c'est beaucoup plus rapide, mais par exemple, un roman, si t'as de l'imagination, même un roman, ils vont mettre 10 à 15 heures pour le lire. Donc tu vas vivre comme un film, une histoire pendant 10 à 15 heures. Un film, en 2 heures, c'est terminé. Et quand tu lis, quelquefois, tu vas mettre un bouquin, suffit que t'aies pas beaucoup de temps pour lire dans la journée, tu vas mettre 3 semaines pour lire un livre, parce que tu vas lire 10 pages par jour, tu vas vivre cette histoire pendant 3 semaines. Là encore, tu peux pas, pour quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'imagination, même si l'audiovisuel c'est complètement différent, je trouve que tu vivras pas autant avec les personnages.
Non, mais je suis comme un peu entre les deux. moi aussi, je collectionnais énormément la littérature, même si c'est comme ça que j'ai commencé en ligne à faire des trucs Star Wars. Et puis, oui, j'ai été déçu que les gens partent, mais perso, je préfère quand même l'audiovisuel. Il y a moins de détails, je dois l'avouer. Puis les miettes qu'ils nous donnent maintenant, c'est de moins en moins intéressant pour moi. Parfois, j'ai le goût de ne pas acheter un livre. Moi qui ai toujours acheté tous les livres, c'est la qualité les miettes qu'ils donnent sont pas toujours intéressantes. Et je fais juste les balayer par terre parce que ça m'intéresse de moins en moins. Mais je crois de tout ce qui est série versus les films va aider grandement la franchise, dans le sens qu'ils vont avoir du temps pour aller en profondeur. Un peu comme Game of Thrones ont fait, un roman expliqué en une saison.
Est-ce qu'il y aura de la bière Star Wars, Denis?
J'en doute. Mais, je veux dire, Game of Thrones, qu'est-ce qu'un roman expliqué en une saison va nous permettre d'avoir de la profondeur et du détail sur les personnages, ce qu'un film ne pouvait pas nous faire, et ce que la littérature compensait dans Légende. Maintenant, les séries vont étirer, ben pas étirer la sauce, vont nous permettre d'apprendre les personnages, puis d'aimer les personnages autre que de façon écrite, et puis ils vont donner le temps de raconter l'histoire, au lieu d'aller vite, pour nous raconter l'histoire, puis qu'on n'a pas le temps de comprendre, ah, c'est quoi la situation politique, pourquoi qu'ils ont fait ci, pourquoi qu'ils ont fait ça. Avec une série, on va avoir le temps. C'est certain que les séries animées pour The Steel Rebels ils vont moins aller dans le détail. C'est beaucoup plus dédié pour les jeunes. Mais je crois que les séries live, s'ils font ça comme il faut, ils vont avoir du temps pour expliquer et puis bien développer les personnages, qu'on s'y attache et puis qu'ils peuvent nous surprendre complètement avec tout le nouveau style créatif télévisuel maintenant. Donc, je préfère ça à la littérature maintenant. C'est dommage.
T'auras des romans pour lier les saisons en plus.
Peut-être. Peut-être. Si c'est des miettes qui relient les saisons, on va avoir déjà beaucoup de détails probablement sur une saison d'une série. Donc pour moi, les romans, si c'est ajouter des miettes à quelque chose qu'on connaît très bien déjà, c'est bien. Ou ils vont pouvoir faire un roman en parallèle qui va être lié à ceci, qui va être canon aussi. Donc, qui va être mieux adapté que des films. C'est pour ça que je dis quelque chose qui va peut-être surprendre. Peut-être que les séries télé vont être appréciées plus que les films à long terme. Parce que,
je suis d'accord, parce que tu vas vivre plus longtemps dans l'univers Star Wars.
Ouais, exactement.
Et tu auras plus le temps de t'accrocher au personnage.
Mm-hmm. Par contre, je voulais répondre à un truc que tu as dit tout à l'heure, Henri. Sur l'aspect durée, finalement, Dany, il a donné un élément de réponse que je voulais t'apporter. Il est vrai que le roman, il te durait plus longtemps, parce que voilà, tu le lis davantage. Mais moi, ce qui me manquait, je trouvais dans les romans, non pas que je sois pas créatif, mais j'aimais bien, si tu veux, qu'on me surprenne en termes de créativité. Et je trouvais que des fois, dans les romans, le visuel et la musique, l'action, etc. me manquaient. Et assez souvent, tu sais, moi, quand je lisais des bouquins, j'achetais les visual guides ou j'allais sur les wikis pour essayer de me visualiser. J'avais besoin de points de repère, d'une créativité déjà apportée, en fait. Alors, peut-être que c'est un peu de fainéantise de ma part, mais j'aimais bien que quelqu'un me propose une situation, une solution concrète à ma créativité. Et quand je lisais Star Wars, c'est ça que j'allais chercher. Donc, du coup, je trouvais ça un peu frustrant. Et il y a un autre élément aussi qui joue sur la littérature, c'est que toi tu considères le temps que tu vas passer comme un élément bénéfique, à savoir tu te dis bah voilà, si quand il sort un roman j'y passe 15 heures, c'est mieux qu'un film où je vais y passer une heure. Donc, d'autant plus qu'il y en a qui sortent, il y en a beaucoup plus qui sortent. Mais là du coup toi tu te considères comme fan étant déjà dans le mouvement, si tu veux. Imaginons le mec qui arrive et qui dit tiens, je me mettrais bien à lire du Star Wars, et bing, t'as 150 romans à lire, et que tu vois ce que je veux dire, si il est obligé de tout lire, 150 romans fois 15 heures, il se peut aussi qu'il y ait des gens que ça décourage. Or quand tu te, puis il faut avoir le temps aussi, tu vois ce que je veux dire, alors que le mec qui va arriver, on va lui dire bah voilà, il y a 12 films, ouais, ok, bon, ça peut valoir le coup, j'en tente un ou deux et je poursuis. Et voir les séries, c'est peut-être plus digeste. Et puis bon, sinon il y a les arguments de Dany que j'apprécie, hein, sur le lien avec le Game of Thrones, qui pour moi il est assez parlant. Mais je me dis, il y a vraiment ces deux éléments-là, quoi, une créativité déjà proposée, puis des éléments de repère, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, les romans de Star Wars, on les a parce qu'il y a eu, le film qui est venu. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, ah, je te comprends totalement, oui.
Allez-y, tu voulais redire un truc, du coup, je te laisse rebondir.
Bah, moi, j'ai encore pas mal de choses à dire, parce qu'on aura le temps. Mais donc, il y a plusieurs autres points que j'avais notés quand je préparais un peu mes notes... pour l'émission, parce que évidemment j'ai pas pu m'empêcher de comparer un petit peu l'ère de Del Rey, même le après 99 et l'ère Del Rey depuis 2014, c'est qu'il y a eu plusieurs trucs. Puis après on passera, justement j'ai une petite note qui fera un peu la transition avec toi, Thomas, où tu vas nous parler un petit peu de tout ce qui est sorti côté comics, justement depuis le canon. Donc un des grands points qui a commencé déjà même avant l'annonce de Légende, je pense qu'un des gros points noirs de l'univers de l'époque d'Del Rey, la seconde époque, ça a été d'abord le départ de Suros Tony, qui était donc l'éditrice principale chez Del Rey, et qui s'occupait un petit peu, elle est partie en juin 2011 de la compagnie avant d'être remplacée par Jennifer Edel, je crois, qui est toujours actuellement, qui est toujours l'éditrice actuelle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce qui était bien avec elle, c'est qu'on connaissait les romans, enfin, on avait les grandes lignes du contrat de roman pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'on savait à peu près quoi s'attendre 3 ans après. Là, qu'est-ce qu'on connaît de 2018? C'est qu'on sait qu'il va y avoir la novélisation de The Last Jedi en mars, qu'on va y avoir le roman solo dont on parlait plus tôt en avril, et qu'il y aura le second roman Throne Alliances pour juin. On ne sait même pas ce qui va se passer en seconde moitié de l'année. Je trouve quand même, comparé à ce qu'on avait avant, c'est très pauvre. Même en parlant en dehors de la qualité des romans, même la qualité de la communication de Del Rey est très très pauvre.
Mais pense-y, Harry, pense-y. C'est que c'est plus important, la littérature. C'est ça le problème. C'est plus important. On n'a pas besoin d'annoncer l'histoire de Star Wars 3 ans d'avance. On a des films qui vont paraître à toutes les années, puis des séries télé, puis des trucs comme ça. On n'a pas besoin de l'annoncer d'avance. Qu'est-ce qu'on a besoin d'annoncer, c'est les films. La littérature, quand ils sont prêts, on va les annoncer, puis les gens vont les acheter. C'est juste des miettes de toute façon.
C'est sûr, c'est sûr que la partie audiovisuelle a pris le dessus. C'est juste un petit peu dommage c'est sûr que les fans de l'UE qui sont autant que moi ou certaines personnes aux États-Unis, c'est sûr qu'on c'est minime. Donc c'est sûr, ça intéresse pas trop, mais ça reste dommage parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, on avait au moins au minimum 10 romans adultes dans l'année. C'était jusqu'à 5 ou 6 romans grand format. Le reste c'était des poches. Là aussi, de nos jours, c'est 5 grands formats dans l'année et c'est tout. Bon, il y a des romans jeunesse, mais je parle vraiment du côté adulte. On a deux fois moins de parutions. Alors si on veut atteindre à un niveau qu'on avait aussi du côté comparé à l'époque légende, on en est très loin vu qu'il y a deux fois moins de parutions en plus.
Mais déjà dans Star Wars littérature, la littérature va disparaître lentement, selon moi, avec tout ce qui va arriver visuellement. Donc,
Je pense pas, je pense que.
Mais non, il va en rester les novelisations, puis des titres intéressants comme Catalyst, par exemple, par rapport à Rogue One. Mais je pense pas les ventes vont descendre éventuellement. C'est ça qui est dommage, mais c'est ça qui va arriver.
Il y a aussi des gens quand même qui voient les films et qui vont se dire je vais approfondir un peu l'univers. Donc je pense que c'est une part.
Moi je pense que les gens sont de plus en plus lâches. Je pense pas qu'ils vont aller voir le détail. Ils vont dire je vais attendre le prochain épisode à la place ou la prochaine saison au lieu d'aller lire. Et il va y avoir tellement de matériel à se mettre sous la dent et de séries de toutes sortes qui n'auront pas le temps. Un roman, ça prend du temps. Les gens préfèrent s'asseoir devant télé et partir laisser leur imagination ou décrocher complètement et pas se concentrer.
Ce qui est moins le cas sur les comics. Je trouve que les comics, même s'ils ont assez peu d'intérêt, on a beaucoup de séries qui sortent quasiment autant qu'à l'époque, on va dire post-épisode 3 quoi. Mm. Pas entre, mais tu vois, on avait en gros trois gros ongoing. On avait KOTOR, dans le futur là. Legacy et puis on avait Dark Times qui remplaçait plus ou moins la Césarie République, et puis après on avait quelques petits one shot qui sortaient de temps en temps, mais en gros on avait quand même une continuité de trois séries. Là si tu regardes, on a trois ongoing, on va dire quatre si on compte Podamron, plus plein de mini-séries qui sortent tout le temps. Donc on peut dire que finalement en comics, peut-être que du coup on a un rythme de parution beaucoup moins élevé en littérature, ou peut-être que mais c'est pas le cas en comics, quand bien même les trucs sont moins intéressants.
Ah oui, côté comics, c'est sûr qu'il y a une meilleure présence dans les magasins, ça c'est sûr, parce qu'on sait très bien, de toute façon on sait très bien qu'avec Marvel ils sont tellement évidemment c'est leur pain quotidien, donc c'est vrai qu'ils vivent de ça, donc c'est sûr que, et puis les comics c'est tellement la mode actuellement avec tous les films Marvel, même les films DC.
Mais n'oubliez pas que le comics c'est aussi un média visuel.
Oui, voilà.
C'est quelque chose d'autre que les gens apprécient parce qu'ils ont de quoi avoir, ils ont le contexte que t'as pas dans le roman. Comme toi, tu disais, Thomas, que t'aimais ça. Ok, il parle d'un vaisseau, tu voulais le voir, le vaisseau, de quoi il avait l'air, ou tel personnage. Je sais qu'il a été dans un guide de référence, je vais aller voir le guide de référence pour m'imaginer de quoi a l'air le personnage. C'est plus attirant, les comics, que les romans. C'est pour ça que les romans, c'est vraiment une clientèle bien particulière.
Mais après, ce que disait Henri tout à l'heure, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que en disant, ça, c'est un petit peu péjoratif, mais c'est vrai en partie, que les gens, ils préfèrent se foutre devant la télé plutôt que de se mettre sur un roman. Le roman, en termes de plaisir, en fait, ça procure un moment de détente, mais il faut être cool, il faut être posé, il faut avoir... Enfin, moi, c'est comme ça que j'aimais bien l'apprécier, c'est... T'es dans un canapé, t'es au silence, t'es... Mais alors que la BD, tu peux la lire, je vais être vulgaire, mais en allant faire caca, tu peux lire une BD, quoi. Un roman, moi, tu vois, j'avais besoin d'être posé, d'être voilà. C'est un moment vraiment pas sacré, mais un peu de détente. Et il faut énormément de temps. Et peut-être que les gens, il y a deux choses qui, mais c'est peut-être sociétal. J'ai l'impression que moi, les gens, dans mon entourage, lisent de moins en moins. Quand je vois mes jeunes, tu sais, même mes étudiants, hein, pas que les lycéens, les étudiants de la fac, je cause avec eux, les mecs, ils me disent, bah non, on lit pas, quoi. Alors, par contre, des séries télé, tout le monde est calé, hein, que ce soit les lycéens, les étudiants, moi, ils sont tous très très bons. Mm-hmm. Mais les plus grands, non, t'as l'impression qu'on va déserter ce média parce qu'il y a un petit peu de fainéantise, quand même, je pense, hein, pas le courage de s'y mettre. Je vais pas dire que c'est un manque d'intelligence, parce que pour moi, ça a rien à voir, mais un peu de fainéantise, et moi-même, je reconnais que je tombe dans ce travers. Depuis que j'avais les gamins et deux jobs, eh ben, je lis beaucoup moins de romans. Les seuls romans que je lis, c'est les romans canon Star Wars. Alors qu'à l'époque, je lisais énormément d'autres romans. Donc peut-être que... Mais par contre, je me dis, tu vois, les jeunes qui n'ont pas encore d'enfants ou qui ont plus de temps, pourquoi ils s'y mettent pas, quoi? Ben, peut-être parce qu'il y a des médias plus attractifs, plus faciles, plus... Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, peut-être que c'est sociétal aussi, alors que le comics, plus facile d'accès.
Bah ça c'est sûr, et je pense que genre de truc, on pourrait en parler même dans un truc, même dans une émission sociopolitique ou de philosophie par rapport au déclin de la littérature dans le monde moderne. Mm-hmm. que ça soit Star Wars ou n'importe quoi. Mm-hmm. Mais ce qu'il y avait de bien aussi, là je reviens, donc cette fameuse sourostonie, c'est ce que j'aimais bien à l'époque, toi aussi tu dois t'en souvenir, Dani, c'était il y avait l'existence des forums officiels, parce que maintenant le site officiel c'est devenu juste j'y vais plus. Alors que le site officiel, à l'époque, quand il y avait vraiment de vrais articles et de vraies histoires, ils avaient donc des forums. Et ce qui était intéressant, c'est que Sourostony avait son propre topic où elle répondait aux questions de fans par rapport à des détails dans les romans. Et ça, le story group ne fait aucune discussion avec ses fans. C'est-à-dire qu'on, s'il y a un souci, on ne sait rien. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un très très gros manque de communication.
Bon, Pablo répond à quelques questions sur Twitter de temps en temps, mais rien de majeur.
C'est sûr que sous Rostoni, c'était quasiment tous les jours, et je me souviens à l'époque quand je travaillais sur Camille Web, je faisais de temps en temps ma news questions-réponses sur Rostoni, où je traduisais une vingtaine de questions-réponses auxquelles elle répondait pendant le mois. Donc, si t'avais des réponses, elle disait pourquoi il y avait certaines maquettes de romans qui n'avaient pas fonctionné, pourquoi il y avait certaines erreurs, patati, patata, il y avait une grande communication.
Ouais, ça, Henri, ça a pas quand même commencé à vriller le jour où The Clone Wars s'est arrivé et où, si tu veux, les gardiens de l'Holocron, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, hein, pour la canonicité, en fait, on leur a dit, ok, vous avez bossé pendant des années, les gars, à maintenir un espèce de canon cohérent, mais quand The Clone Wars arrive, eh ben, ça piétine tout. Peut-être que du coup, à ce moment-là, ils se sont dit, ok, c'est pas grave, on va pas s'embêter autant que ça avec le canon, puisque de toute manière, ils en ont rien à foutre. Tu vois, et je me rappelle qu'à l'époque, Karen Travis avait même dit, bah les gars, moi je balance tout, j'arrête. Elle avait pas fini ses romans qui étaient géniaux, les Républiques Commando. Mm-hmm.
Bah d'ailleurs, okay, ça correspond à peu près au début de départ de Sourostony et puis Jennifer Reddell qui. De toute façon, il y a beaucoup de romans qui ont vu la mort avec l'annonce du légende. Hein. On pensera surtout à la trilogie Soul of the Jedi qui devait faire suivre, qui devait suivre
Jenna. Crucible,
voilà, autour de Jenna et l'annonce légende. On en parlait l'annonce du canon. On parlait encore de cette trilogie un petit peu à cette époque-là. Puis 3 mois plus tard, ça a été on a sonné le glas. Mais tu parlais justement, c'est parfait, Thomas, tu parlais de cette histoire de Clone Wars. Ça aussi, il y a une autre grande période qui a fait Del Rey. Et justement, en comparaison avec, en compagnon avec Dark Horse, et justement, ça va faire une transition avec toi, avec les BD où tu vas nous faire donc un petit topo des séries qui existent. Mais là encore, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, dans l'univers Star Wars, il se passait 3 ans. Dans l'univers réel, il se passait 3 ans entre les deux films. Et là aussi, Del Rey et Dark Horse nous avaient fourni, à l'époque, une série à la fois de romans et de comics. et de comics, t'avais vraiment, pendant 3 ans, on a vécu à travers les deux éditeurs, la guerre des clones quasiment au jour par jour.
Ouais, pour traduire, pour ceux qui regardent que la VF, c'est les BD Clone Wars dont on parlait tout à l'heure de chez Delcourt, qui c'est en ça. Anglais c'était République, c'est ça, hein, les one shots.
C'était l'ancienne série République qui est passée justement, qui est devenue juste Star Wars, et justement avec l'arrivée de la guerre des clones, qui a perdu son sous-titre. Peut-être que je me trompe. Non, je crois que le titre est...
Non, c'est République depuis le début, et il y a une partie...
Non, c'était juste Star Wars au début. Et c'est devenu après République, justement. Je crois justement ça a pris le terme République avec l'arrivée
de en VF, ils étaient traduits à la fois dans les 10 tomes librairies, mais également dans le mag en BD qui sortait chez Delcourt. Ouais. Avec des petits one shots sur tous les Jedi, même les secondaires et tout. Et là, pour le coup, enfin, ça faisait moins parce qu'il y avait beaucoup de tomes, ça faisait moins justement miette, je trouvais. Enfin, quand bien même c'est fait autour des films.
Effectivement, quand tu t'as vécu 3 ans entre l'épisode 2 dans le monde réel, je parle entre l'épisode 2 et l'épisode 3, t'as vécu 3 ans de la guerre des clones avec si tu lisais à la fois les comics et les romans comme point de rupture. Il y avait l'épreuve du Jedi, on avait Yoda, Dark Rendez-vous,
et on avait aussi Cestus
Déception, la déception de Cestus, je sais plus comment il s'appelle, Tempête sur Cestus en français, et tu faisais la combinaison avec les comics, mais tu t'avais vraiment, comme je le dis, la guerre des clones. Et après, évidemment, là, la série animée est arrivée, et un peu, c'est un peu le terme aussi qu'on retrouve aux États-Unis, ça a mis un coup de boule, quoi, un coup comme les engins de chantier avec leurs grosses boules pour détruire la maison. Ça a été un vrai château de cartes par la suite, et ça a été dommage, quoi.
Ah, t'es tellement nostalgique, Harry.
Ah, ça va, c'est...
T'es beaucoup
c'est
trop nostalgique.
Ça y est, il va repleurer à nouveau.
Bah, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de parler un petit peu du dernier Jedi parce que j'étais pas là pour l'émission. Mais c'est vrai que j'ai bien apprécié le film. Et c'est vrai que ça m'a donné C'est vrai que la vision de Luke Skywalker dans ce film-là, ça m'a donné qu'une seule envie, c'était justement, même si j'ai pas le temps, ça m'a donné une envie, c'était de me replonger dans l'univers légende. Parce que je trouvais que le Luke Skywalker était beaucoup plus réel et...
Mais il n'existe plus, ce Luke.
Oui, je sais bien,
préparé aussi.
Je sais pas, est-ce que j'ai pas, tellement comme tu dis, est-ce que j'ai pas été préparé parce qu'on a eu beaucoup moins de spoilers et que j'ai un peu comme tout le monde, j'ai un peu découvert le film au cinéma à 99%. Donc peut-être qu'en le revoyant, j'ai pas eu le temps de le revoir deux fois au cinéma, mais quand je vais le revoir en Blu-ray, peut-être qu'effectivement je le verrai d'un autre œil parce que je connaîtrai déjà ce qui se passe. Mais c'est vrai que, De voir l'histoire, même si j'ai bien aimé, c'est vrai que je me suis pas senti dans mon univers habituel.
C'est difficile de désapprendre et réapprendre.
Ouais, c'est vrai, se déconditionner. Ouais.
Mais c'est vrai que je suis nostalgique, mais c'est vrai que je trouve que c'est dommage que j'aimerais bien revivre ça sous le monde canon, c'est-à-dire entre deux, qui se passe vraiment, qui... Je sais pas s'il se passe tout d'un coup 10 ans, parce qu'on vous en parlait justement dans l'émission autour de Dan Jedi, qu'il se passe du temps entre l'épisode 8 et 9, et est-ce que ça serait bien justement que Del Rey nous fasse quelque chose autour de ça, et fasse une grande histoire, s'il se passe 10 ans entre l'épisode 8 et 9, qu'il nous fasse une grande histoire en partenariat avec Dark Horse pour nous faire vivre ces 10 années, peut-être pas sur 10 ans évidemment, mais entre la durée entre les deux films, je sais pas, je sais pas 5 bouquins et 2 séries comics, ça suffirait.
Je pense que tu peux rêver. Je pense que tu peux rêver.
Ah ben j'en suis persuadé que je rêve.
Aussitôt qu'il va avoir du potentiel, ça, Disney va dire on fait une série télé, un film ou quelque chose de visuel. Le potentiel, ils vont tout le temps le mettre sur l'arc narratif principal. Si c'est intéressant.
D'ailleurs, donc je parlais un petit peu comics. Alors, toi, Thomas, toi qui es donc plus lecteur comics, peux-tu nous faire juste un petit rappel de toutes les séries qui existent actuellement chez Marvel?
Alors, les nouvelles séries, donc, canon. Alors, on a, je vais faire deux types de séries, parce qu'on a les ongoing, en fait, qui sont des séries, a priori, on pourrait dire, en CDI. Et puis après, on a les séries de, très courtes, les mini-séries, qu'on pourrait dire, c'est séries en CDD, quoi. Hein. Donc, elles ont un certain nombre limité, alors que les autres continuent. Alors, tout d'abord, on commence par les ongoing, hein, les séries qui continuent tout le temps. On a tout d'abord la série Star Wars, qui est pour l'instant la plus longue, hein, qui se situe entre l'épisode 4 et 5. D'ailleurs, tiens, juste pour info, là, dans le dernier comics que j'ai acheté, je crois que c'était le Docteur... Non, c'était pas le Docteur Aphra, c'était le Star Wars 5. Il distribuait une petite chronologie, en fait, des romans, enfin, des comics, et en fait, la chronologie, il place juste les BD entre les différentes affiches de films, mais il n'y a aucune date non plus.
Voilà.
Et voilà, ça sent un peu le flou artistique. Et donc, on a une série classique sur Star Wars, une série classique sur Dark Vador, mais qui s'est arrêtée pour laisser place à Docteur Aphra, qui est un personnage secondaire, à mon sens, peu original de Star Wars. Et ça devient, en fait, la deuxième série, c'est un peu la suite de Dark Vador, même si d'un point de vue éditorial uniquement. Ensuite, on a une troisième série principale, qui est l'ongoing sur Poe Dameron. Et puis là, on va avoir une nouvelle série ongoing qui est à nouveau sur Dark Vador. Donc on pourrait dire que ça fait 4 séries. Mais bon, la nouvelle sur Dark Vador n'est pas encore sortie. Et celle-là, elle va se passer entre les épisodes 3 et 4. Elle remplace un petit peu à l'époque Dark Times, en fait, qui était la suite de République. Alors, je sais pas si vous nous suivez toujours. Dark Times, ça se situe entre l'épisode 3 et 4, où Dark Vador allait flinguer les derniers Jedi qui restaient. Et ça commence à peu près pareil. Et apparemment, niveau qualitatif, c'est à peu près du même niveau. Donc ça, c'est pour les séries principales qu'on a. Ensuite, on a les mini-séries, qui là, vraiment, sont des shots de 5 issues, quoi. On en a une sur Dark Maul, une sur Obi-Wan et Anakin, une sur Lando, une sur Chewbacca, une sur Leia, une sur Han Solo, une sur Captain Phasma. On a un truc également, les ruines de l'Empire, qui se passe sur les petits rebelles juste après l'épisode 6. Et on a la fameuse double mini-série sur Kanan, je crois que ça doit faire 12 issues en tout. Je crois pas les avoir oubliés parce que j'ai le catalogue sous les yeux là.
Et puis après, juste noter du côté US, on peut aussi noter le début la semaine dernière, si je me trompe pas, de la mini-série qui adapte le roman justement de Thrawn de Timothy Zahn.
Ah oui, bah parle-en parce que j'allais pas en parler, j'ai zappé. Vas-y, complète si tu veux.
Pour l'instant, je peux pas tellement en dire plus que ça, par le fait qu'il y aura quelques scènes supplémentaires, si je me trompe pas, parce que pour tout vous dire, bah, on enregistre ça fin février et j'ai juste récupéré le premier numéro cet après-midi, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire.
D'accord, mais apparemment c'est crossover avec le, enfin crossover, non, c'est ça se confond avec le roman de Timothy Zahn, c'est ça?
C'est ça, c'est un peu c'est l'adaptation du roman avec quelques...
Ah, c'est l'adaptation carrément.
Oui, c'est l'adaptation du roman, oui, avec quelques scènes supplémentaires qui ne sont pas présentes dans le roman, un petit peu comme ils avaient fait. À l'époque,
avec le Jedi fou, quoi.
C'est ça, exactement.
Et d'ailleurs, c'est des Français, je crois, qui avaient fait les
dessins. Les dessins, Vatine et Blanchard, après, je crois bien, ouais. Je crois qu'ils étaient Français, ouais.
Et comme quoi, dès que c'est Zahn aux commandes avec un bonhomme bleu, bah hop, ça y est, on te fait l'adaptation en comics. Et d'ailleurs, tu vois, bah, pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure sur la créativité, à l'époque, quand j'avais lu les bouquins, et bah, j'avais les comics à côté pour aller... j'avançais en même temps à peu près, si tu veux, pour avoir les visuels qui m'intéressaient, quoi, tu vois. Pour avoir une... Bon, enfin bon, après, toi, tu comprendras pas parce que du coup, toi, c'est l'inverse, quoi. Tu veux créer toi-même ton univers. Donc, voilà, ça c'est...
Vas-y. Juste encore en mini-série, parce qu'elle n'est pas parue en France, on peut aussi noter celle Phasma, aussi, qui raconte comment elle s'est échappée de son trash compactor après l'épisode 7, qui fait un petit lien pour...
Apparemment bien indispensable, non?
Très dispensable, pas... très très beau dessin, mais pas beaucoup de dialogue. J'ai trouvé que c'était vraiment très... Ben, c'est un petit peu... Je suis désolé si j'attaque un peu le débat maintenant, mais c'est un petit peu ce qu'on retient des mini-séries d'ailleurs de Marvel.
Ah bah...
C'est que c'est très... très pauvre. À part les ruines de l'Empire, c'est sympa, mais Leia, on dirait que ça ressemble pas au personnage.
Ah non,
Chewbacca, attends, ça se lit en 30 secondes, cette histoire, à quoi ça sert? Alors que tu mets en personnage principal un personnage qui parle en faisant des bruits, donc...
C'est des onomatopées, là.
Voilà, c'est ça, ça se lit en 30 secondes, c'est Lando, c'est sombre, mais ça n'apporte rien. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment raté le coche avec les mini-séries chez Marvel. question série principale, effectivement, moi au contraire, j'aime beaucoup Aphra. Je trouve que c'est un d'ailleurs c'est le premier personnage créé par l'univers canon qui a eu le droit à sa propre série, et c'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout grâce, bon, c'est vrai que c'est les deux droïdes qui sont avec elle, BT et 000, font une grande partie du boulot, mais je trouve que c'est un personnage excellent. Mais c'est vrai que par contre, dans la série principale, un autre pétard mouillé, on nous fait une grande annonce pour le fameux crossover Vader Down, alors qu'ensuite tu peux continuer les séries, ça n'a pas d'incidence.
D'ailleurs, il y a aussi un crossover.
C'est pas comme à l'époque
entre Aphra et Star Wars après.
Aussi, ouais. Mais c'est pas la même incidence que même Vector quand t'arrivais dans l'époque Legacy. Avec l'époque Legacy, le l'arc Vector avait son importance pour les derniers arcs de Legacy.
Raconte pour les auditeurs jusqu'où ça allait le crossover Vector, quoi.
Alors le crossover Vector, c'était un talisman qui était retrouvé dans les quatre séries qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire Knights of the Republic par John Jackson Miller, Dark Times donc à l'époque, ça se prolongeait ensuite dans la série Rébellion qui se passait donc avec.
Ah, c'est celle-là que j'ai oubliée.
Voilà, et ensuite ça se terminait dans la série Legacy, et donc t'avais une grande histoire. Je crois qu'il y avait 4 numéros pour dans KOTOR, 2 numéros pour Dark Times, 2 numéros pour Rébellion et 4 numéros pour Legacy. Donc t'avais une grande histoire. C'était pas vraiment lié entre elles à part le talisman, mais t'avais comme un truc important qui se propageait entre moins 4000 jusqu'à 130 et quelques dans l'univers Star Wars. Et ensuite, il y avait une certaine importance à ce fameux talisman pour la fin de Legacy. Donc, c'était vraiment un vrai crossover. Alors que là, Vader Dawn, oui, ça se propage. C'est une histoire qui est racontée entre deux séries. Mais passer l'histoire même, tu peux continuer que ça soit... donc, c'était Dark Vador et Star Wars. Tu pouvais continuer les séries. Et c'est comme si rien ne s'était passé. Le Starscream et Citadel, c'était donc c'est le second justement qui fait lien entre Aphra et Star Wars. C'est un petit peu plus d'incidence, mais on est quand même toujours pas au point d'avant. Mais sinon, donc comme je disais, effectivement Aphra c'est pas mal. La nouvelle série Dark Vador, moi j'avais beaucoup aimé la première série Dark Vador, mais ça avait perdu en qualité plus on avançait dans l'histoire. La nouvelle série Dark Vador est géniale. Star Wars, je trouve que déjà ça s'essouffle, parce que comment veux-tu qu'ils passent?
Il se passe rien
et ça s'essouffle. Ils
s'en sont même à faire des flashbacks sur d'autres personnages, mais qui sont aussi anecdotiques. Dani, je sais pas si ça te parle tout ce qu'on
veut. L'arc narratif de Yoda, l'arc narratif de Yoda et tout ça, c'était nul. J'ai pas aimé. C'était là où Yoda part sur sa planète où il redevient. Où c'est un maître, mais qui redevient un peu l'apprenti parce qu'il apprend de nouvelles choses.
Des bonnes idées pourtant à la base, mais qui finit en queue de boudin, quoi.
Je vais vous poser la question, donc, messieurs, pourquoi vous continuez à en acheter?
Ah! Ah!
C'est si mauvais que ça.
On a besoin de donner des sous à Disney parce qu'on a mal pris.
Moi, j'ai quand même besoin d'approfondir. Bah, comme je le dis, c'est vraiment ma partie. J'ai quand même besoin d'approfondir. Est-ce que je suis un peu sadomaso? Je sais pas, mais je suis littéraire, donc c'est vrai que j'ai ce besoin vital quand même de continuer. Après, il y a quand même des trucs intéressants, mais c'est vrai que je trouve je pense que aussi je continue dans le sens, j'espère qu'il se passera enfin quelque chose.
C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, c'est un peu comme Henri.
On est dans l'attente.
Après, parce que là, on pourrait croire qu'on est des vieux aigris, là, quand on dit ça. Et c'est vrai que ta question, elle est pertinente, Dani. C'est pourquoi on continue d'acheter? J'ai quand même le plaisir. Alors, est-ce que c'est mon côté, je sais pas, matérialiste, d'avoir un produit? Moi, j'achète pas, tu sais, toutes les figurines, les statuettes, mm-hmm. ou les jeux, et j'achète juste les jouets pour mes enfants, mais moi j'ai arrêté parce que je me fais engueuler après. Mais du coup, par contre, les BD, ça passe. Et je suis un peu matérialiste. J'ai le plaisir, si tu veux, d'acheter le produit, de l'avoir dans les mains, puis quand même d'ouvrir les pages et de me projeter dans ces mondes, tu vois. Je te donne un exemple. Une BD qui a pas été du tout adorée, c'est Dark Maul. Et moi, j'ai adoré cette mini-série. C'est justement un petit exemple, une exception qui confirme la règle. Parce que tu retrouves tout l'environnement qu'on avait vu dans certaines séries, etc. Ils ont été piochés plein de races, etc. Et ça, j'ai adoré. adoré parce que je me retrouvais quelque part. Poe Dameron, j'aime beaucoup les suivre, même si le début est un peu pourri, parce que finalement, retrouver les persos de la postlogie, on a très peu d'occasions pour l'instant, et ça répond à un besoin, pas totalement. C'est un petit peu comme si on était des toxicos. En ce moment, je regarde The Wire, et un mec qui dit, mais attends, vends de la drogue de merde. Il me dit, ouais, mais les gars, ils sont pas contents. Oui, mais comme ils sont pas contents et qu'ils ont pas satisfait leurs besoins, ils vont en acheter deux fois plus. Bah, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que on sait ce que c'est que de la bonne drogue, mais que du coup, pour l'instant, on nous file une drogue moitié bien, donc du coup, on achète encore plus. Et là, j'achète encore plus qu'à l'époque de Delcourt. À l'époque de Delcourt, je sélectionnais un petit peu. Là, Panini, j'achète tout, quoi.
Est-ce que tu sélectionnais pas parce qu'il y avait justement trop de choix?
Peut-être. Mais parce que aussi, ce que tu dis, Henri, c'est pertinent, parce que on s'est mis à acheter dès le début. En plus, là, sur Panini,
bah, quand même. Après, je sais pas quand toi tu as commencé à acheter de littérature. Moi, j'ai commencé quand je suis devenu fan de Star Wars, c'est-à-dire fin 97, et il y avait quand même déjà quasiment, il y avait 20 ans d'univers étendu qui existait déjà, même si ça commençait réellement qu'en 91.
Bah, moi, fan de Star Wars depuis tout gamin, mais de l'univers étendu pas tout de suite, quoi, tu vois. Et quand je me suis mis dans les Delcourt, tu vois, il y avait déjà des trucs de paru et je voulais pas tout prendre.
Faut pas oublier que Delcourt aussi, ils ont mis du temps avant de se lancer sérieusement dans la publication des comics Star Wars, parce que quand moi j'ai commencé à acheter chez eux, ils ont vraiment commencé, on va dire, un peu après l'arrivée de l'épisode 1. C'était encore très très pauvre ce qui sortait. Il y avait les novélisations, il y avait quelques épisodes de ce qu'ils appelaient Jedi, avec Quinlan Vos, qui était donc l'adaptation de la série régulière Star Wars de l'époque, qui est devenue République. Mais c'était très très pauvre. Ils ont vraiment commencé, je crois, dans les années 2000-2002, à vraiment se décider à sortir avec plus d'intensité les bandes dessinées. Donc peut-être que tu as eu plus de facilité à rattraper ton retard.
Ouais, puis je sais pas, du coup, tu vois, enfin sur la fin, je m'étais mis à quasiment tout acheter, mais il y a quand même des trucs que j'ai jamais acheté, mais que j'ai lu. Tu vois, par exemple, le côté obscur, je les faisais pas, mais je les ai tous lus, mais je les faisais pas, je les achetais pas.
Mais là encore, si tu fais la comparaison avec l'ancienne régulière Star Wars et l'actuelle régulière Star Wars, t'as comme l'ancienne régulière qui a comme introduit pour les comics le personnage de Quinlan Vos, qui est devenu un personnage très important, alors que là, tout d'un coup, c'est un peu dommage, parce que bon, c'est vrai qu'on va la retrouver dans le roman là dont Danny parlait un peu plus tôt autour de Solo, mais on va rencontrer donc la fameuse Sana. Ça a été un pétard mouillé, on nous a hypé comme pas possible pour ce personnage là pour qu'ensuite ça tombe dans l'eau, et puis maintenant c'est devenu un personnage à peine secondaire dont on se fout un petit peu complètement.
On pourrait dire pas de grosse plus-value, quoi.
Voilà, c'est qu'ils essayent de nous vendre du rêve, et puis en fait ça devient un cauchemar presque. Je pars un petit peu dans les extrêmes, mais
tu le dis, c'est seulement pour vendre qu'ils ont fait ça.
Même chose
pour le premier Star Wars avec les 5 couvertures différentes.
D'ailleurs, ils en ont vendu un paquet. Hein.
C'était juste pour vendre.
C'est sûr que quand ils disent ça a été le meilleur comics vendu de l'histoire. Ouais, enfin derrière, ils avaient aux États-Unis, il y avait 100 couvertures différentes avec des gens qui voulaient compléter leur collection, donc ils en achetaient 10, 15, 20. Donc ils pouvaient se permettre, évidemment, s'ils s'y réduisaient vraiment au nombre de personnes individuelles à acheter, je suis sûr que ça serait pas du tout le même résultat.
Mm-hmm. Exactement.
Oui, et puis en plus, il y avait l'effet d'aubaine. Pas sûr que, même si ce premier arc était sympa de Star Wars en collection Marvel, il était sympa, mais ça valait pas non plus la période de Delcourt, là, hein.
Non, oui, c'est ça que je voulais dire, c'était pour conclure. Je trouvais vraiment que, comme Danny, tu le disais il n'y a pas longtemps, c'est que, en fait, même si c'est un peu dommage, mais c'est devenu commercial, et on se laisse, le pire, c'est que ça marche. Mais c'est vrai que c'est un peu, peut-être moins sur les films, mais côté cash, côté justement univers étendu, que ce soit roman, comics et tout le reste, je trouve que c'est devenu, en tout cas de ce côté-là, c'est devenu vraiment plus commercial qu'autre chose. On essaie de nous vendre les choses pour au final, tout ça pour ça. Alors oui, on va donc conclure là-dessus. Donc Danny, est-ce que tu as des mots finaux à nous raconter?
Des mots finaux. Je dirais que c'est dommage pour Légende. Mais je pense que c'est juste une adaptation à la nouvelle clientèle de Star Wars, le nouveau canon, qui va être vers les médias visuels, la nouvelle génération qui passe plus de temps devant un écran que devant du papier. C'est juste une adaptation. et puis il faut juste s'y faire et puis accepter que qu'est-ce qui est littérature et légende, qu'est-ce qui est littérature canon, est-ce qui est qui va être des petits détails supplémentaires pour les vraiment grands fans, mais qui est absolument pas nécessaire, versus légende qui était la trame narrative principale entre les films qui nous faisaient vivre Star Wars parce qu'on n'avait rien d'autre. Donc, c'est juste, faut juste s'y faire, faut faire notre deuil, on n'a pas le choix. Mais j'espère quand même qu'ils vont réussir à trouver une façon de faire quelque chose d'important que la littérature. Si, par hasard, ils décident de faire un test et de créer une histoire canon qui va être géniale, juste pour voir si ça va se vendre et que c'est essentiel à lire pour comprendre entre deux films, ça serait intéressant. Faites un test, Lucasfilm. Juste un test pour voir si ça, si ça, ça ferait revenir des gens un peu à la littérature, parce que présentement, ça fait juste s'écouler de peu à peu et on va perdre des gens. Même moi, je commence à considérer ne pas tout acheter. Donc, moi qui étais un grand fan. Donc, il faut qu'il donne quelque chose, sinon ça va vraiment revenir à un ou deux romans par année dans le futur, et puis du moins le moment que les fans vont décider de laisser tomber parce que la qualité n'est plus là. Donc c'est mon mot de sagesse, si on peut dire ainsi.
Et toi, Thomas, de ton côté, petit mot de conclusion.
Alors, le mot de conclusion, je vais répondre déjà à la question toute simple. Est-ce que la littérature est mieux maintenant ? Clairement, elle n'est absolument pas mieux maintenant. Elle était évidemment 15 000 fois mieux avant. Donc là, il n'y a pas photo. Par contre, mon mot de conclusion, ce sera celui-là. Ce sera de répondre à l'autre question qu'on s'est posée, à savoir, est-ce que je préfère la période de maintenant ou d'avant ? Techniquement, si les films qui suivent sont bons, et les séries qui suivent sont bonnes, notamment une série live... Très franchement, je crois que je préfère avoir un UE littérature, BD et comics et puis romans qui soit dispensable, anecdotique, qui se construit sur des miettes, même avec des bons acteurs, enfin des bons acteurs, des bons auteurs qui nous fassent des bonnes histoires. Je préfère un UE moyen en littérature, mais quelque chose de solide au niveau des films et des séries. Et pour les éléments qu'on a débattu, je vais pas revenir dessus, mais il y a surtout un truc qui m'interpelle, c'est qu'en fait, et c'est là où je me rends compte que c'est fort, c'est que cette fois-ci, j'ai la possibilité, grâce à ces nouveaux médias, que j'avais pas sur le comics ou les BD, de partager ces moments. De partager ces moments pour deux choses. Premièrement, parce que déjà, c'est un média, par exemple, que ma compagne ou ma famille n'allait absolument pas regarder. Donc j'étais tout seul à pouvoir... À l'époque, j'avais mon frangin qui lisait des romans avec moi et on en parlait, mais c'était le seul. Et je pouvais pas en parler en famille. Aujourd'hui, grâce à ces médias plus accessibles, plus populaires, non seulement tous les gens que je connais peuvent le suivre avec moi, mais surtout on peut le suivre en temps réel, parce que même un roman, quand on parle, alors on venait en parler dans Star Wars en direct entre nous ou sur les réseaux sociaux, on en discute a priori, mais rien que quand tu regardes, tu sais, les vidéos des mecs qui se filment en train de regarder un trailer, il y a cette espèce de spontanéité de partager le moment présent du moment, tu vois, par exemple quand on regarde les Star Wars Rebels en famille ou quand on va au ciné voir un film et que il y a une scène qui se passe, tu te regardes avec l'autre d'à côté, tu fais un petit commentaire, tu vis les choses à plusieurs, et je trouve que si c'est bien fait, franchement, je suis largement plus content du rachat de Disney, de tout ce que ça implique. C'est-à-dire, ça en valait la peine, j'ai envie de dire.
Oui, le potentiel est du côté maintenant, là, du côté canon. Le potentiel est maintenant plus que les gens.
Ah, c'est sûr que moi, pour de mon côté, c'est sûr que vous savez un peu j'en parle à chaque fois, c'est vrai que moi je préfère aller à l'ancienne époque côté littérature, mais effectivement vous avez raison en disant maintenant on a, comme on dit, une ardoise propre et effacée, donc ils ont tellement de possibilités, ils seraient justement, comme tu dis Dani, s'ils se réveillent pas un peu, ils vont encore plus en plus perdre, et plus ils perdront, c'est un peu le cercle infernal, plus ils perdront de lecteurs, plus ils n'oseront pas créer des univers intéressants, et je trouve que il y a déjà eu plusieurs opportunités manquées, et j'espère qu'ils vont pas continuer trop à les manquer, parce que je trouve que ce serait vraiment dommage de perdre ce pan de l'univers Star Wars, et qui reste, je trouve, pour moi en tout cas, très important. Donc voilà, donc Dadine, tu veux nous annoncer un peu les prochaines émissions?
Oui, bon, on va bientôt enregistrer un Star Wars Gamers numéro 11, donc on va surtout parler des actualités jeux vidéo et de plateaux récentes. Et puis, ben, Thomas l'a mentionné, il y a eu un Star Wars en direct littérature qui a été enregistré. Donc, Thomas, Loïc et David qui discutent des livres gardiens des Wills, plus les héritiers des Jedi et des comics Star Wars 5 et Dr. Aphra numéro 1. Donc, c'est à venir. On ne sait pas exactement quand, mais c'est à venir. Et je vais aussi faire un petit rappel que Star Wars en direct va être à la 20e édition de Génération Star Wars et Science-Fiction le week-end du 28 et 29 avril 2018 à QC. Donc, nous, on va enregistrer un épisode devant public le samedi 28 avril de 18h à 19h. On va probablement y tirer un petit peu, qui va être se dérouler dans l'espace Jakku. Donc, vous êtes les bienvenus. Thomas va être là d'ailleurs.
Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur notre discussion. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup connaissant un peu notre auditoire. Et donc, il y a toujours la possibilité d'envoyer un commentaire par email à studio@starwars.direct. Évidemment, sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct. Ou bien encore sur tous les fameux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou la chaîne YouTube. Alors, sinon, comment peut-on te rejoindre, Dany, un peu sur Internet?
Comme d'habitude, sur Twitter, à l'usager Dany Pepin.
Et toi, Thomas?
Alors moi, c'est sur Facebook, à l'usager Tom & Roses.
Et moi, comme d'habitude, n'hésitez pas. Maintenant, vous allez me retrouver sur la page donc, YouTube de l'émission où on pourra sûrement discuter plus en profondeur. Sinon, sur Facebook, à l'usager Henri Levental ou bien via mon site internet de science de cinéma Breaking News. Donc, on remercie à nouveau nos partenaires qui sont Mentinbox, Star Wars sur le net, siteclan.net, Planète Star Wars Univers, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science Fiction. Donc de la part de Dany, Thomas et moi-même, merci d'avoir été l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous !